السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chers sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir fi bayt min buyutillah, dans une maison d'Allah Azza wa Jal, pour étudier la science religieuse. Allah Rabbul Izza vous récompense pour votre patience. Je m'excuse pour ce retard. Vous êtes au courant des situations, des difficultés de circulation. Alhamdulillah, on a quitté Saint-Denis à 17h45. On a eu l'autorisation de quitter la madrasa un peu plus tôt. Il nous a fallu 3 heures pour arriver jusqu'à Saint-Louis. Par la route de la montagne, la route des plaines, avec un accident, un effort mujahadin, qu'Allah accepte votre patience aussi. Vous êtes resté, vous n'êtes pas parti. La seule chose qu'on peut demander à Allah Azza wa Jal, c'est que pour chaque minute, chaque instant passé dans ces moments, on va dire, c'est pas des trucs terribles non plus, hein, c'est des embouteillages, mais chaque moment de patience, inshallah, que par le biais du mujahada, Allah Rabbul Izza augmente notre ilm, Allah Azza wa Jal nous accorde la sincérité, l'ikhlas, que nous ne devenons pas des consommateurs de bayan. Ça, c'est très important. Hein, le tout, c'est pas d'appeler 50 conférenciers, chacun fait un thème, une heure de temps et demie, deux heures de temps, qui sait qui parle bien, qui sait qui fait de belles phrases, tout. C'est bien, le wa'v, le maw'iva, le bayan, c'est excellent, il n'y a rien à dire, c'est de la propagation, c'est de la da'wa. Mais l'objectif, c'est pas de parler, l'objectif, c'est pas d'apporter la nouvelle la plus impressionnante, l'objectif, c'est pas, wallahi, Il faut qu'on recadre bien notre niya, on recadre bien notre intention. Tant la personne qui prépare le programme, il n'a pas besoin de montrer qu'il est compétent ou il n'a rien à prouver aux gens. Là, wallahi al-azim, on a juste à prouver à notre Seigneur qu'on est sincère de ce qu'on fait. Et les personnes qui viennent, ils ne vont pas noter. Ah, lui, il est d'adis comme ça, l'autre, c'était plus long. Là, abadan, on vient prendre le ilm, on vient apprendre le din d'Allah Azza wa Jal, avec pour objectif, pour intention unique de comprendre. Et de demander à Allah, on lève les mains ce soir dans Qiyam al-Layl, on dit, oh Allah, tu m'as donné tawfiq d'apprendre quelque chose aujourd'hui, oh Allah, donnez-moi la possibilité de mettre en pratique dans ma vie, qu'il y ait un changement dans ma vie, qu'à partir de maintenant, je deviens un meilleur croyant, je deviens un meilleur musulman par le biais de ce que j'ai entendu. Wallahi al-Azim, si on arrive à mettre ça en pratique, je vous assure qu'un programme de 10 minutes ou de 5 minutes, c'est beaucoup mieux que 2 heures de temps, 3 heures de temps. Aham Sheikh, le plus important, c'est la sincérité. On recadre notre niya et l'objectif pour lequel on est là. On est là pour écouter, pas uniquement pour écouter, on est là pour comprendre, on est là pour mettre en application, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Chers frères, en islam, vous n'êtes pas sans savoir les récompenses qu'il y a dans les assemblées religieuses. Au moment où nous sommes assis, Allahu Akbar, il y a tellement de choses qui se passent au-dessus de nous, des choses que l'être humain ne comprend pas, ne réalise pas, ne voit pas, n'entend pas, ne ressent même pas. Au moment où nous parlons, Allahu Akbar, Allah Azza wa Jal a envoyé des malaïkas qui sont présents. Ils sont parmi nous. Ils sont au-dessus de nous. Ils sont en train de rapporter à Allah, notre Seigneur, qui était présent, qui a fait un effort pour apprendre son din. Et à la fin de l'assemblée, notre nom, moi je m'appelle Ibrahim, lui il s'appelle Farouk, Moana s'appelle Moana Ismail, et ainsi de suite, Riyad, Habibullah qui rentre, salam alaikum, notre nom sera cité dans les assemblées, béni dans les assemblées, auprès d'Allah et de ses malaïkas. C'est sharaf, c'est là un grand honneur, mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam. Également, nous avons cette promesse de la part d'Allah Azza wa Jal, comme le prophète alayhi salatu wa salam nous a annoncé qu'à la fin de l'assemblée, les péchés des personnes qui étaient présentes sont pardonnés. Même quelqu'un qui est passé là au hasard, quelqu'un qui s'est assis un instant, voir qu'est-ce qui se passe, même la personne qui était là au hasard, Allah Azza wa Jal est tellement Rahman, Rahim, tellement clément, qu'Allah lui accorde la récompense de l'assemblée religieuse, que les péchés, les petits péchés, sont effacés. Et en plus d'avoir les petits péchés effacés, dans une version d'Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, dans le Musnad, il dit que les petits péchés de ces personnes sont transformés en bonnes actions. Ajib. Il n'y a que notre Seigneur, il n'y a que Allah qui peut nous donner autant de choses. C'est-à-dire que si l'ange de la mort nous reprend là, maintenant, dans un instant, je vois de l'assemblée, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des doyens, il y a des personnes pour qui j'ai énormément de muhabba, des personnes d'un certain âge, mais si l'ange de la mort reprend notre ruh, ou reprend l'un d'entre nous à ce moment précis, et que nous sommes dans une assemblée religieuse, et que nos petits péchés ont été pardonnés, et transformés en bonnes actions, mes chers frères en islam, mes chères sœurs, imaginez qu'est-ce qu'on obtient de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est juste pour réaliser que là où on est, Allahu Akbar, on est au meilleur endroit au monde. Que ce soit ce majlis ou un autre, n'importe quel rawdah min riyad al-jannah, n'importe quel jardin du paradis, ce sont ces assemblées religieuses. Vraiment, celui qui y est, il est au bon endroit. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous donne la possibilité d'y être et nous demandons à Allah, al-Mawla, de nous donner la possibilité maintenant de profiter et d'avancer dans notre religion. Mes chers frères, en islam, ce qui distingue cette assemblée, on va dire ce silsila, on va dire cette série de programmes sur la Sirah Nabawiya, c'est justement, on étudie la vie de Ashraful Makhlouqat. On étudie la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour que le mu'min doit avoir pour le prophète alayhi salat wa salam doit être un amour débordant. Doit être un amour qui ne compte pas de limites. L'amour que nous devons avoir pour Al-Habib alayhi afdalu salah wa tammu taslim, on ne doit pas trouver de mots pour l'exprimer. Tellement nous devons aimer Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est signe de foi et ça c'est condition de shahadatayn, condition de l'attestation, la deuxième partie de l'attestation de foi, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, on atteste que Muhammad est le prophète d'Allah. Pour que cette attestation soit réelle, on doit avoir l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre cœur. Ceux qui ont suivi les programmes depuis le début, est-ce qu'il y en a qui étaient présents depuis le début, mis à part les organisateurs, est-ce qu'il y en a qui ont été là depuis le début de la révélation, les premiers programmes, allez, même ceux qui sont dans l'organisation, moi j'aimerais juste, on n'a pas le temps d'échanger, mais celui qui a pu assister, subhanallah, à 5 interventions sur la Sirah, et donc entendre et écouter la vie de la prophète alayhi salat wa salam depuis le début, mais Allahu Akbar, qu'est-ce qu'on ressent dans notre cœur? Comment est-ce que l'amour pour le prophète s'installe réellement profondément dans le cœur? De nos jours, tout le monde dit, oui, ils ont porté atteinte à la dignité de mon prophète. Ils ont caricaturé notre prophète. Ça ne se fait pas, c'est condamnable. Il y a plein de gens qui parlent. Il y a plein de gens qui vont marcher, qui vont défiler, qui vont manifester. Il y a plein de gens qui vont répondre à des questions, des interviews et tout. Ils vont dire que oui, je suis outré dans ma foi en tant que musulman. Oui, c'est bien, mais merci, c'est une bonne chose. On est tout à fait d'accord que quand on porte atteinte à la dignité du prophète alayhi salat wa salam, on se doit de répondre présent, de réagir. Mais ça ne s'arrête pas là. À un moment donné, je dois me remettre en question quelle est réellement ma relation avec An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quel est vraiment mon engagement pour mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que réellement je l'aime plus que tout au monde? Aimer le prophète alayhi salat wa salam, c'est l'aimer plus que nos parents, c'est l'aimer plus que nos enfants, c'est l'aimer plus que nos frères et sœurs. L'amour que le muslim se doit d'avoir pour le prophète alayhi salat wa salam, comme j'ai dit, on ne doit pas trouver de mots pour l'expliquer. On verra dans un instant quand les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in, lorsqu'ils ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa salam était mort, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus quoi dire, certains ne tenaient plus debout sur leurs jambes. Ça c'est l'amour. Si on veut vraiment connaître comment est-ce qu'un musulman aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisez la biographie, voyez comment est-ce qu'ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont perdu ce ni'ma, lorsqu'ils ont perdu Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalus salah wa tammu taslim. Et maintenant, moi, de comparer mon amour pour mon prophète à travers ces sentiments, est-ce que lorsque j'entends la sirah de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que mon cœur frémit? Est-ce que je me sens vraiment impliqué? Est-ce que je me reconnais comme ummati? Et est-ce que je le reconnais réellement comme prophète, comme mon nabi, comme mon rasoul, celui que le jour de Qiyam, mon rêve serait qu'il me regarde un instant pour qu'il m'accorde le shafa'a. Mon rêve, c'est qu'il m'appelle près du Hawd Kawthar pour boire de ce bassin. Mon rêve, c'est d'être avec lui dans le Jannah. Mais pour arriver à cet aboutissement, les sahaba, ils l'auront sans le moindre doute. Le cheminement à faire est énorme. Développer l'amour pour le prophète alayhi salat wa salam de le cœur, c'est un cheminement obligatoire pour chaque croyant. Et la meilleure façon de commencer, certes, on va dire, aimer le prophète, c'est mettre la sunnah en pratique, sans le moindre doute. Mais moi, je dirais que mettre la sunnah en pratique, oui, mais en parallèle, apprendre la vie de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que je vais aimer cet homme? Quand je vais connaître avec précision chaque fait et geste de ce Habib? Dans quelle situation il a pris quelle décision? Quand il était opprimé à Makkah, comment est-ce qu'il a réagi? Quand Abu Jahl a déversé les intestins de chameau sur lui. Comment est-ce qu'il a réagi quand à Taif, les Banu Thaqif, ils ont jeté des pierres, il a saigné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il a réagi quand Allah Rabbul Izzah lui a repris Khadija radiallahu anha et Abu Talib, l'année de la tristesse. Comment est-ce qu'il a réagi? Il s'en est remis à Allah Azza wa Jal. Il a mis Allah Rabbul Izzah dans son cœur. Il a mis de côté ses sentiments. Il s'est dit que tout vient d'Allah. C'est la décision d'Allah. J'accepte. Ce n'est pas pour ça que la da'wah elle va ralentir. Je me dois d'avancer. Ça, c'est comportement prophétique. Quand le prophète Ali salatu wa salam a conquis Makkah, Fath Makkah, reprendre Makkah, c'était l'événement le plus extraordinaire pour la péninsule arabe. Makkah, si vous... Allahu Akbar, quelqu'un qui a habité à Makkah ne peut plus habiter ailleurs. Quelqu'un qui a le cœur attaché à Makkah, subhanallah, c'est quelque chose d'énorme. J'avais déjà dit cette assemblée, j'avais des amis, quand on était étudiants à Al-Madina, Al-Munawara, des amis de Makkah. On plaisantait un peu avec eux, on dit qu'alhamdulillah, tu es à Madina depuis combien d'années? Maintenant, tu es Madani, ton cœur est attaché à Madina. Il a dit, abadan, jamais, il dit, Makkah reste Makkah. Et effectivement, les gens qui aiment Makkah, qui sont nés à Makkah, le cœur reste attaché à Makkah al-Mukarrama. Il y a quelque chose d'énorme à Makkah qui attire les cœurs. Et donc, reprendre Makkah, retrouver la Kaaba, faire le tawaf librement, faire la salade à la masjid al-haram, c'était quelque chose d'énorme qu'Allah Rabbul Izzah accorde au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moment de joie. Comment est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi dans les moments de joie? Il s'en est remis à Allah Azza wa Jal. Il a réalisé que tout vient d'Allah. Quand j'ai des difficultés, c'est la décision d'Allah. Quand j'ai des ouvertures, c'est la décision d'Allah Azza wa Jal. Je n'accuse personne. Je n'ai pas à culpabiliser. Je n'ai pas à être fier de moi non plus. Tout vient d'Allah Azza wa Jal. Étudier la sirah, subhanallah, ça nous donne les bases pour vivre toutes les situations de notre vie. À la madrasa, on a une matière qu'on a trafiquée. On n'appelle pas sirah, on l'appelle sirah appliquée. C'est pour les grands. Sirah appliquée, on passe en revue tout ce que les étudiants, ils sont collégiens, fin collège, début lycée, tout ce qu'ils ont peut-être déjà appris en sirah, on revient depuis le début et on voit chaque réaction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu dans toutes les situations de sa vie, comment est-ce qu'il a réagi et comment est-ce que moi je peux l'appliquer dans ma vie. Et c'est ça l'objectif de l'étude de la sirah. Adopter, c'est pas connaître les dates, c'est pas connaître le nom des participants. La différence entre un cours de sirah et un cours d'histoire, c'est quoi? D'un cours d'histoire, on vous demande de retenir les dates, les événements, les personnages principaux de l'événement, le dénouement et ainsi de suite. Basse. Dans la sirah, on doit connaître comment le prophète a agi, comment est-ce que l'aide d'Allah est venue et comment est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, je peux adopter le même comportement du prophète Ali salat wa salam, de ses sahaba, pour obtenir l'aide d'Allah Azza wa Jal, pour avoir la réaction qu'Allah Rabbul Izzah attend de chaque croyant. C'est ça le but de l'étude de la sirah. Et de le contexte, il y a deux points. Premier point qui est intéressant, c'est bien de ne pas attendre le mois de Rabi'ul Awwal pour étudier la vie du prophète sallam. On ne rentre pas dans un système d'innovation que quand c'est le 12 Rabi'ul Awwal, là tout le monde parle de la sirah. Après, excusez-moi, comparaison est un peu décalée. C'est comme la Saint-Valentin. Quand c'est, je ne sais même pas c'est quand la Saint-Valentin d'ailleurs, en février il me semble, quand c'est la Saint-Valentin, ben là on aime madame, on achète des chocolats, on achète des fleurs, on fait... Et puis le lendemain c'est fini, on revient normal et tout, ben passe à 7 PM, je fais que manger ou même ainsi de suite. Mais il n'y a pas de sincérité dans l'amour là. L'amour c'est quelque chose qui continue. Alors est-ce que quand on arrive le Rabi'ul Awwal, là on parle de la vie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis toute l'année on n'en parle plus, abadan. Donc c'est bien si toute l'année le mu'min peut avoir un contact permanent avec les savants de sa masjid. Et insister, demander, être demandeux qu'on a besoin de cours de sirah pour connaître la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est très important. Et deuxième point, et ça on a dit un peu en introduction, dans le contexte où nous vivons, où l'actualité est très défavorable, où il y a une poussée, une montée d'islamophobie qui est très souvent pilotée par des gens qui ne le disent pas, où également il y a beaucoup de désinformation sur l'islam, ben la meilleure réponse... Je pense que la meilleure réponse c'est pas dans la rue. La meilleure réponse c'est pas les interviews. C'est bien, il faut être présent là-dessus aussi, mais je pense que la meilleure réponse c'est que dans ma vie, je deviens le modèle prophétique. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le prophète alayhi salat wa salam était un modèle parfait pour nous. C'est-à-dire que dans toutes les situations, j'arrive à reproduire le modèle prophétique avec les croyants, avec les mécréants, avec mes parents, avec mes voisins, avec mes collègues, bref, avec tout le monde, j'essaie d'adopter le même comportement que notre prophète alayhi salatu wassalam, et je vous assure, ça c'est la meilleure des réponses. C'est la meilleure des réponses parce que nous allons être un da'wah, nous allons être un motif de guider
un motif de compréhension de la religion. Ce que les gens ne comprenaient pas à cause de la désinformation sur l'islam, ils vont comprendre. Ils vont immédiatement réaliser que tout ce qui a été dit, ce n'était pas vrai, parce que Mohammed, Ismaïl, Ishaq, c'est mon voisin, et je vois son comportement, s'il y a des années-lumière de ce qu'ils décrivent sur tel site internet ou dans les médias. Ça, c'est la meilleure des réponses. Mais à partir de quand on pourra adopter l'attitude prophétique? Je ne critique aucune sunna, bien au contraire, on a limité la sunna. Pour moi, la sunna, c'est je mets le bonnet, the topi, je mets mon kafni, j'ai mon miswak, le miswak, il n'y a rien de mieux que le miswak. Pour moi, la sunna, ça se limitera à ça, sans le moindre doute. Mais la sunna, c'est également ma manière de me comporter dans la rue, ma manière d'agir quand je me fais insulter, quand je me fais interpeller. Est-ce que je réponds? Est-ce que je vocifère comme un sauvage? Est-ce que je crie comme quelqu'un qui n'a aucune éducation spirituelle? Là, wallah, quand j'ai un problème, tant au niveau du couple, tant au niveau familial, quelles que soient les situations de ma vie, comment est-ce que le prophète avait réagi? J'adopte la même attitude. C'est ça également, mettre la sunna en pratique. C'est pas uniquement l'apparence extérieure, c'est que mon intérieur, je dis pas soit identique, mon intérieur ressemble au mieux à l'intérieur, aux qualités, aux sifat qu'avait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour vraiment découvrir les facettes cachées de notre prophète alayhi salatu wa sallam, c'est l'étude de sa vie en entier, de sa biographie. Donc, vous avez déjà, ou alors ceux qui étaient présents depuis le début, ou ceux qui ont pu écouter par internet ou par les fichiers audio, vous avez déjà étudié le début de la révélation. La période où le prophète alayhi salatu wassalam a invité les gens vers l'islam à Mecca en secret. Et il y a eu les premières conversions. La période où Allah Azza wa Jal lui a demandé d'inviter les gens en public, avec la montagne de Safa, Abu Lahab. La période où le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons vont connaître des moments difficiles, des insultes, des persécutions, parfois même des meurtres pour les personnes qui affirment haut et fort leur iman. Vous avez vu également la prêche du prophète alayhi salatu wassalam à Taif, qu'on a expliqué tout à l'heure. Vous avez vu également l'année de la tristesse, lorsque le prophète perd en même temps son oncle qui était son protecteur en guillemets, et Khadija radiallahu anha qui était son soutien. Vous avez vu également, vous avez passé en revue l'émigration, la hijra vers Al-Madina Al-Munawwara. On a passé en revue également l'organisation de la société à Madina, une société idéale, j'allais dire idyllique, non pas idyllique, c'est réel, ça s'est produit comme ça, c'est la meilleure des sociétés qui a existé dans l'histoire des civilisations, basée sur le tawhid et sur la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Déjà passé en revue la bataille de Badr, Uhud, Bi'r Ma'ouna, Bani Mustaliq, Khandaq, les fossés, Banu Quraïda, et je dis les plus importantes, hein, pas les plus petites, sur le Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah, également la bataille de Khaybar, le Umratul Qadha, lorsque après Hudaybiyah, ils ont eu la possibilité maintenant d'aller faire le Umrah. Donc ça aussi, c'est un point important de l'histoire de la Sira, l'histoire tragédique de Bi'r Ma'ouna, qui dépasse de loin tout ce qui peut se produire comme manifestation d'islamophobie. Également, la conquête de Mecca, un des événements les plus forts de l'histoire de la civilisation arabe et de l'islam. La bataille de Hunayn, la bataille de Taif, la bataille de Tabouk, le dernier, la bataille de Tabouk, et on est maintenant en l'an 9 de l'Hégire. On est maintenant en l'an 9 de l'Hégire. Le collègue qui a fait le programme juste avant, mon Abilal, d'accord, il devait enchaîner avec le Hajj al-Wada', le pèlerinage d'adieu. Question de timing, il n'a pas pu compléter. Et donc, Inch'Allah, Rabbul Izzah, on va démarrer ce soir avec Hajjatul Wada' et le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vu l'heure qu'il est, on a commencé à quelle heure? On va pas faire très long parce que humainement et sur le plan calorique, on tiendra pas. On n'a pas mangé encore aussi, donc c'est très dur. On en est à 20 minutes. Je pense que si on peut faire encore une heure quinze, Inch'Allah. Voilà, donc Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On est donc, j'ai dit, on est en l'an 9 de la Hijra, en l'an 9 de l'Hégire. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part d'Allah azza wa jal en l'an 9 de l'Hégire les versets qui décrètent que le Hajj est devenu obligatoire. Selon l'avis de la majorité des savants, c'est à la fin de l'an 9 de la Hijra de l'Hégire que notre prophète alayhi salatu wa salam reçoit la révélation, les ayahs qui ordonnent le Hajj et donc le pèlerinage. Le Hajj devient le cinquième pilier de l'islam. Et on est à une époque en l'an 9 de la Hijra, où même la campagne de Tabou qui est terminée, on est à une époque où, subhanallah, Al-Mubarak Fawri utilise des termes magnifiques, « Tammat a'malu da'wa wa iblahu risala ». La révélation, la propagation de la mission du prophète alayhi salat wa salam s'est parachevée. Notre prophète s'est acquitté de sa mission et le travail de la da'wa, il l'a accompli de la meilleure des façons. Notre prophète alayhi salat wa salam, on est à une époque en l'an 9 de l'Hijra où il a déjà construit une société parfaite avec des sahaba, une société composée des muhajirin et des ansar qui vivent pour Allah et son prophète, qui développent de leur cœur l'amour pour Allah et l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une société où on n'adore plus les divinités, les idoles comme c'était le cas des polythéistes de Mecca et également des polythéistes de Madina, les Aws et les Khazraj. Donc les tribus arabes qui étaient de le shirk, ils sont maintenant de le tawhid, ils sont revenus vers le droit chemin. Il n'y a plus de shirk à Mecca et à Madina et dans la plupart des endroits autour. Et cette société, elle est basée sur la sunna des enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant les enseignements pendant les 13 années de Mecca que les enseignements des 10 années à des 9 années, là on est en l'an 9, de Al-Madina Al-Munawwara. On a affaire à une société qui est quasiment parfaite. Des sahaba qui ont les comportements les plus nobles. Et donc la mission du prophète alayhi salatu wa sallam s'est maintenant complétée. Et notre prophète alayhi salatu wa sallam, il comprend que l'heure est bientôt arrivée, qu'il est bientôt temps de remonter, que son âme quitte ce dunya et qu'il retourne auprès d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen inviter les gens vers l'islam, le prophète alayhi salatu wa sallam va dire à Mu'ad une parole touchante. « Ya Mu'ad, innaka asa » Allah talqani ba'da ami hada. Ô Mu'adh, on comprend le contexte, je t'envoie prêcher, propager l'islam au Yémen. Il est possible qu'à ton retour tu ne me retrouves plus, ya Mu'adh. Wa la'allaka an tamurra bi masjidi hada wa qabri. Il est possible que quand tu reviennes, tu viens dans ma masjid et tu trouves ma tombe, Mu'ad. Fabaka Mu'adhan khasha'an li firaq Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mu'ad ibn Jabal s'est mis à pleurer parce qu'il sait que il se doit d'accomplir cette mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Mu'ad pour inviter les Ahl al-Yaman. C'est des gens qui ont énormément de qualités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Mu'ad et personne d'autre, pas Abu Bakr, pas Umar, pas Uthman, pas Ali, pas Abdurrahman, pas Abdullah ibn Abbas, personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Mu'ad parce qu'il avait des qualités, il avait la science, il avait l'éloquence, il avait la sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait pertinemment que si Mu'ad il va au Yémen, Mu'ad il saura inviter les gens vers l'islam et les Ahl al-Yaman ils vont écouter Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu. Mu'ad il sait qu'il a un amana, il a un dépôt, il a une responsabilité, mais il sait également qu'il y a une déchirure, parce que là, quand il va saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va faire salam, comme on dit, c'est le mulaqat wa sallam, ce sera l'adieu, al-habib. Imaginez comment les sahaba aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment demander à un sahaba, va à 3000 kilomètres, mais quand tu vas revenir, je ne serai plus là. Imaginez la déchirure, imaginez le poids, imaginez la tristesse qui envahit le cœur de Mu'adh ibn Jabal à ce moment précis. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit cette parole à Mu'adh ibn Jabal, c'est que le prophète sallallahu alayhi wasallam a déjà compris qu'Allah Rabbul Izza va le rappeler à lui bientôt. Mubarak Fawri rahimahullah, il continue, dit que dans la hikmah d'Allah, dans la sagesse d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam va voir le résultat de sa da'wah avant de quitter ce dunya. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est la consécration. C'est la consécration pour un prophète. C'est une consécration qu'aucun prophète n'a vue. Aucun prophète n'a eu l'occasion de voir de cette façon le résultat de sa da'wah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte aux cieux pour le voyage nocturne, l'Isra wa al-Mi'raj, c'est un cadeau qu'Allah azza wa jal accorde au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cadeau dans un contexte très difficile, le contexte de Mecca, où il y a des insultes, des accusations, de la désinformation et de la persécution. Et dans ce contexte difficile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus vient de payer son oncle Abu Talib, celui qui le protégeait, qui empêchait les gens de lui porter atteinte physiquement. Et son épouse, sa bien-aimée Khadija radiallahu anha, celle qui était avec lui depuis le début, qui a lui, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu annaka rasulullah, avant Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui était présente, et qui lorsque au début de l'histoire, lorsque l'ange Jibril alayhi salam apporte suratul alaq, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de rencontrer une créature qui vient du monde du ghaib, de l'invisible, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement peur, que vous voyez là, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce morceau de chair qu'il y a au niveau, à la fin du cou, ça bougeait, ça tremblait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était hyper angoissé, il ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Qui est-ce qu'il va voir en premier? Il aurait pu aller voir ses tontons. Abu Lahab l'aimait beaucoup à cette époque. Abu Jahal, son oncle, l'aimait beaucoup à cette époque. Abu Talib le chérissait, bien sûr. Les Ahlé Makka le considéraient comme le meilleur parmi eux. Comme la personne la plus véridique, le plus honnête, le meilleur parmi eux. Qui que ce soit, quelle que soit la personne qu'il serait allé voir, il aurait eu du soutien. Le prophète ne va pas voir ces gens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va voir sa femme Khadija radiallahu anha parce qu'il sait qu'il va, il va trouver le réconfort par ses mots, que les paroles d'une épouse ça apaise le cœur du mari. Ça c'est la relation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait développée, cet amour profond qui est vraiment l'amour par excellence que l'homme se doit de partager avec son épouse. On revient, donc il va voir Khadija radiallahu anha. Et dès le départ, Khadija radiallahu anha va l'encourager et dit « Jamais Allah ne te ferait quelque chose de mal, jamais Allah ne te punirait, jamais il t'arrivera quoi que ce soit. Tu es quelqu'un de bien, tu viens en aide aux pauvres, à l'orphelin, à la veuve, tu es quelqu'un de droit, tu es quelqu'un qui a des valeurs. » Bref, elle va encourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va le rassurer, elle va trouver les mots pour réconforter son mari alayhi salatu wa sallam et elle va l'amener voir Waraqa bin Nawfal, son cousin, qui va lui dire que tu es le Nabiullah. C'était l'ange Jibril qui était venu, le même qui était venu voir Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Cette femme qui l'a aidé, qui l'a soutenu depuis les premiers jours de la révélation jusqu'à maintenant à chaque étape, et que longtemps après son décès, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de Khadija radiallahu anha auprès de Aïcha, auprès des autres épouses, à un moment donné Aïcha dit au prophète d'Allah, jusqu'à quand tu vas nous parler de Khadija, Khadija, Khadija? Allah t'a accordé d'autres épouses qui sont meilleures qu'elle. Quoi, ça m'a dit non, Allah m'a accordé d'autres bienfaits, alhamdulillah, mais Khadija reste Khadija. Et cette année de Amal Huzn, c'est-à-dire de la tristesse du prophète alayhi salatu wassalam, il va perdre Khadija radiallahu anha. Donc dans ces moments difficiles, Allah lui accorde comme cadeau la vision du Jannah pour qu'il annonce la bonne nouvelle à Al Yasir, qu'il annonce la bonne nouvelle à chaque personne qui a donné sa vie pour chapeau à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pour chaque personne qui continue à souffrir pour le Tawhid, pour Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, et pour Soumaya qui a déjà quitté ce dunya, qu'Allah Azza wa Jal a réservé un Jannah qu'aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu, qu'aucun cœur ne peut imaginer, personne ne peut comprendre c'est quoi le Jannah, je l'ai vu. Dans ce contexte, la vision du Jannah et du Jahannam, la vision de ses frères, Anbiya alayhim salatu wassalam, la vision des malaïka qui l'accueillent comme un roi, comme un prince, qui lui souhaite la bienvenue, c'est une transition énorme avec ce qu'il est en train de vivre à Makkah comme situation difficile, comme ibtila. Et le Hajjatul Wada' a un point commun avec le voyage nocturne, c'est que lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir toute personne qui a lu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et dans un endroit où on peut voir tout le monde, à Mina, à Arafat, à Muzdalifa, des plaines, des endroits. Ce n'est pas dans une mosquée où la mosquée peut être pleine, mais il y a 80% des gens à l'extérieur, on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui sont présentes. Dans un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir un visuel sur l'ensemble de la Ummatul Istijaba. L'ensemble des personnes qui ont accepté Ash-Shahadatayn. Et cette vision, Allahu Akbar, cette vision, ce sera un réconfort pour notre prophète alayhi salatu wassalam. Et il sait que maintenant il quitte ce dunya, qu'il a propagé le dîn d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui est magnifique, on verra dans un instant, c'est que après le serment d'adieu qu'on verra dans le Hajjat al-Wada, après le serment d'adieu, Allah Azza wa Jal révèle immédiatement Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, que maintenant c'est bon. Que maintenant c'est complété, maintenant tu as parachevé ta mission. Notre prophète alayhi salatu wassalam va donc voir le résultat de ces 13 années difficiles à Madina, à Makkah, et de ces 9 années à Al-Madina Al-Munawwara. Pendant cette période où il a fait tout ce qui était en son pouvoir, tout ce qui était humainement possible pour inviter les gens vers l'islam, pour propager le bien, pour faire le tablir al-risala, pour détourner les gens du shirk, de la bid'a, des innovations et tout ce qui n'appartenait pas à notre dîn. Addal amana wa ballagha al-risala wa nasaha al-umma, il a conseillé la umma comme Allah Azza wa Jal lui avait demandé. Le prophète alayhi salat wa salam va lancer l'appel. Il y aura un i'lan général dans le monde musulman. Ce i'lan commence à Madina, il va se propager dans tout endroit, village, petit endroit, dans les wadis, dans les vallées éloignées où il y a des gens qui ont le tawhid de leur cœur. Bien en avance, le prophète alayhi salat wa salam fait passer le message que il va accomplir le hajj cette année. Et là, il y aura quantité de personnes qui vont le rejoindre à Makkatul Mukarrama. Alors juste, on revient un petit peu en arrière, on avait dit que le hajj avait été rendu obligatoire en l'an 9 de l'Hijra, et en l'an 9, le prophète alayhi salat wa salam n'a pas accompli le hajj lui-même. Il a envoyé qui? Qui c'est qui a fait le premier hajj? Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Au fur et à mesure de la sira, du début au milieu et à la fin, on va voir et on continue à voir la supériorité d'Abu Bakr sur n'importe quelle autre personne. Et c'est là la plus belle des réponses. On verra également la place de Aisha radiyallahu anha dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au sein de notre religion. Et c'est là la plus belle des réponses pour ceux qui osent porter atteinte à l'honneur, à l'intégrité d'Abu Bakr al-Siddiq, d'Omar Farouk, d'Aïcha radiallahu anhu majma'in et des autres sahaba. Voyez quelle était leur place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier hajj en l'an 9 a été accompli sous le commandement d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Qu'en est-il des hajjs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait accompli avant Al-Madinah? Est-ce que le prophète avait fait le hajj avant? Oui, si on avait le temps, on aurait fait un peu un truc interactif, mais on n'a pas beaucoup de temps. Le prophète alayhi salat wa salam, selon l'opinion de la majorité des savants, le prophète salam avait accompli 3 hajjs avant que le pèlerinage devienne obligatoire. Tout simplement, les 3 fois où il a rencontré les gens de Al-Madina. La première année, le prophète salam a rencontré une petite délégation. Les gens étaient venus le voir à Mina pour prendre conseil concernant les litiges, les guerres qu'il y avait à Madina entre la tribu de Aous et les Khazraj. Et le prophète sallam leur a donné les bons conseils. Il savait, le prophète sallam avait cette réputation, c'était quelqu'un de sage, de net, de posé, qui donnait les bons mâchoiras. L'année suivante, ils ont fait la promesse de revenir l'année suivante et peut-être même d'amener d'autres personnes pour accepter la mission du prophète sallam. L'année suivante, il y a eu un groupe un peu plus important qui est venu au prophète sallam, qu'on appelait le Bay'atul Aqaba al-Oula, le premier serment d'allégeance. Et l'année suivante, il y a eu le deuxième serment d'allégeance. Donc, le prophète sallam avait accompli au moins 3 hajj avant que le hajj devienne obligatoire. Certains savants sont même d'avis que tous les ans à Mecca, jusqu'à ce que le prophète sallam quitte Mecca pour la hijra, tous les ans le prophète sallam accomplissait le hajj. Que ce soit avant la prophétie, parce que les Arabes accomplissaient le hajj. Même avant l'islam, ou avant même que le prophète sallam quitte Makkatul Mukarrama. Mais là, la différence, c'est que c'est le premier hajj qui va être fait comme Allah l'a ordonné. Avec le tawaf, le sa'i, Mina, Arafat, Muzdalifa, le Qurbani, chose que les Mekwa ne faisaient pas. Il y a beaucoup d'étapes qu'ils zappaient, qu'ils sautaient ou qu'ils déformaient, ou alors qu'ils essayaient de ramener à leur avantage. Le prophète sallam va écarter tous les avantages que les Arabes avaient dans le hajj. Parce que les Quraysh, ils gagnaient beaucoup d'argent dans le hajj. Des exemples, ils obligeaient les gens à acheter les vêtements qu'ils vendaient eux-mêmes. Un genre de, on le tient d'ictical. Et s'ils n'achetaient pas les vêtements, ils n'avaient pas le droit de faire le tawaf, et ainsi de suite. Bref, ils essayaient de gagner de l'argent par le pèlerinage. Le prophète met fin à toutes ces traditions et fait en sorte que c'est un hajj basé sur Kitabullah wa Sunnatin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un hajj selon les ordres d'Allah et selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hajj que le prophète s'apprête à accomplir, il est connu sous le nom de Hajjatul Wada'. Al-Wada', ça veut dire quoi? L'adieu. Pourquoi Hajjatul Wada'? On a compris, parce que pendant ce Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va saluer, il va rencontrer déjà des personnes, des croyants qu'il n'a jamais vus, et il va les saluer pour la dernière fois, parce que c'est des gens qui venaient de loin, et qui s'ils le revoient, ce serait éventuellement le prochain Hajj. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait pertinemment qu'il ne serait plus présent, il ne serait plus de ce dunya au prochain Hajj. Donc, en même temps, le prophète rencontre des gens, mais en même temps, il leur dit adieu, il sait pertinemment qu'il ne va plus les voir par la suite. Ce Hajj également est appelé Hajjatul Islam. Pourquoi Hajjatul Islam? Parce que c'est le premier Hajj après que le pèlerinage soit devenu un pilier de l'islam. C'est le premier Hajj obligatoire. Ce Hajj est également appelé Hajjatul Balagh. Al-Balagh, c'est la propagation. Parce que dans ce Hajj, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam va rappeler à l'ensemble des personnes présentes les bases de la religion et les dernières choses qui devaient être enseignées. Ben, ils vont être enseignés. De cette façon, à tablir, la propagation, elle est complète. Et quelles étaient les dernières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore propagées? La façon d'accomplir le Hajj. C'est la seule chose que le prophète n'avait pas encore montré aux croyants. Et en expliquant le Hajj aux croyants, sa mission est terminée. Parce qu'à partir de ce moment, il a tout enseigné aux sahaba, à sa umma, et cela va se propager. C'est pour ça que après le Hajjatul Wada', après le pèlerinage, le serment d'adieu, le verset Al-Yawm akmaltu lakum dinakum va être révélé par Allah Azza wa Jal. Quels étaient les objectifs du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là on le résume encore une fois à travers ce Hajj, c'est d'enseigner par des termes simples, ce qu'on appelle en arabe Jawami al-Kalim, des paroles simples, synthétiques. Le prophète sallam, par ses paroles synthétiques, il va rappeler les bases de notre dîn. On verra dans le serment les bases concernant les aqidah, les croyances, le akhlaq, le mu'amala, la taqwa, la spiritualité. Faire en sorte que la personne qui écoute un serment qui n'est pas très long, ben, c'est comme si qu'il écoutait tous les principes de la religion, et qu'une fois retourné de leur village, de leurs différentes régions éloignées de Makkah et de Madina, ils vont propager. C'était là l'objectif de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus bien sûr d'enseigner la façon d'accomplir le Hajj pour que cela soit transmis de génération en génération. Donc le prophète alayhi salatu wassalam fait le i'lan, et énormément de gens vont le rejoindre à Madina. C'est pas Makkah. Il y a beaucoup de gens qui vont venir à Madina Munawwara pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa sortie de Madina sur sa route vers Makkatul Mukarrama. Hadith de Jabir radiallahu anhu qui décrit que le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur Aswa, sa chamelle. Hatta idha stawat bihi naqatuhu. On continue. Lorsque le prophète s'était installé sur sa monture, et donc il a commencé le voyage, il commence le voyage à dos de chameau de Madina, donc vers Makkah. Jabir radiallahu anhu dit que je me suis mis à regarder, à scruter un peu l'horizon. Navartu ila muddi basari. Muddi basari, c'est jusqu'à perte de vue, jusqu'à l'horizon. J'ai regardé jusqu'à l'horizon, bayna yadayhi, devant lui. Il y avait des gens à cheval, des gens à dos de chameau et des gens qui marchaient. وعن يمينه مثل ذلك. J'ai regardé à sa droite. وعن يساره. J'ai regardé à sa gauche. ومن خلفه مثل ذلك. Et derrière, l'horizon était rempli de personnes. On voyait que des gens qui se déplaçaient. Un convoi énorme qui a quitté Madina Sharif, Madina, pour aller vers Makkah al-Mukarrama. Et il dit que et tous ces gens étaient présents. Wa Rasulullah, là il rentre un peu dans des paroles poétiques. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna adhhurina. Il explique comment c'était un bienfait d'être parmi eux. Il y avait des croyants partout à perte de vue. Toutes ces personnes qui représentent la réussite de sa mission, et le prophète est au milieu. Le prophète est là au milieu. Wa alayhi yanzil al-Qur'an, et la révélation continue à descendre sur lui. Wa huwa ya'rifu ta'wila, et c'est lui qui connaît parfaitement le sens de chaque verset. Wa ma 'amila bihi min shay'in 'amilna bi, et tout ce que le prophète met en pratique, ben nous aussi en tant que sahaba on met en pratique. C'est-à-dire ce déplacement, ce convoi, ça représente la perfection. Le meilleur des hommes, an-nabi. Les meilleurs des hommes, le meilleur des akhlaq, le meilleur des comportements, le meilleur des a'mal, c'était vraiment un convoi exceptionnel et parfait qui se déplaçait. Fa ahalla bit tawhid. Le prophète alayhi salatu wassalam a lu le talbiya, la bayk Allahumma la bayk, la bayk la sharika lak la bayk, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. La formule de talbiya que tout le monde connaît, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, qu'Allah Rabbul Izza vous amène rapidement vers sa maison pour être présent, il y a le talbiya et faire le hajj inshallah. Wa ahalla an-nas bi hadha alladhi, et les gens se sont mis à répéter le talbiya avec le talbiya du prophète sallallahu alayhi wasallam. Le prophète sallallahu alayhi wasallam lisait le talbiya, les gens aussi lisaient le talbiya. En commentaire, le Mu'arrikh, l'auteur du livre de Sirah, dit: imaginez ce que le prophète alayhi salatu wa salam ressent. Combien de personnes étaient présentes lors du Hajj al-Wada? Plus de 100 000 personnes. Quand le prophète sallallahu alayhi wasallam a commencé à propager la mission, ils étaient à combien? Il y avait lui, il y avait Khadija, il y avait Abu Bakr al-Siddiq, il y avait Ali ibn Abi Talib, il y avait un ou deux esclaves qui s'étaient convertis à l'islam, 5 ou 6, une poignée. Ensuite, il y a eu 7e, 8e, 9e, dans la difficulté, avec beaucoup de taklif, beaucoup de complications, beaucoup d'épreuves, le groupe s'est renforcé peu à peu. Ils se cachaient. Ils se cachaient dans la madrasa de Al-Arqam ibn Al-Arqam pour écouter le Coran, pour connaître qu'est-ce qui a été révélé, pour enseigner, pour pouvoir mettre en pratique. C'était un islam caché, un islam persécuté. Maintenant, il y a 100 000 personnes autour de lui qui se déplacent. Et imaginez 100 000 personnes qui lisent en même temps la baik, Allahumma la baik. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment précis, en train de ressentir de son cœur, quelle récompense Allah est en train de lui donner de ce dunya? C'est pas une récompense, c'est une vision. La vision d'une mission qui a été propagée de la façon la plus parfaite, comme aucun prophète n'a pu le faire dans l'histoire des prophéties, même ceux qui ont propagé, qui ont eu une espérance de vie, de propagation de 950 années, et n'ont pas eu autant de disciples, et n'ont pas accompli leur mission de façon aussi parfaite comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hada. On continue. On est samedi 26 Dhul-Qa'da. Samedi fi yawmi sabt, le samedi 26 Dhul-Qa'da, le prophète alayhi salat wa salam donc quitte Madina pour aller à Mecca. Le prophète alayhi salat wa salam amène avec lui badanou, qu'on appelle ça le mouton ou le cabri qu'il va couper le dam de Qiran. Donc on va dire ce sera un hajj Qiran, le dam que le prophète va amener pour le hajj, c'est-à-dire il amène al-hadi, il amène l'animal avec lui dans le trajet dans la caravane qui prend la route de Madina vers Makkatul Mukarrama. Ils vont quitter Madina après la salat de Dhuhr. Après la salat de Dhuhr, ils quittent Madina hatta balagha dhal Hulayfa qabla an yusalli al-Asr. Où il y a de nos jours la masjid de Tan'im. La masjid de Madina où on s'arrête pour mettre le ihram, si on a le temps, en général on va directement, mais là on met le ihram, là on lit le niya, on fait les deux rakas, d'accord. Le prophète quitte Madina pour arriver, Madina c'est-à-dire la ville, la Masjid Nabawi, pour arriver vers cet endroit. Depuis Zohar, il arrive là-bas juste avant le Asr. De nos jours on le fait en combien de temps? En 15 minutes, en 20 minutes en voiture. Pris depuis Zohar jusqu'à Asr, il arrive à Dhul-Hulayfa. Arrivé là-bas, le prophète alayhi salatu wassalam, avec tout le monde, ils font la salat de Asr. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire de la rak'at de salat en plus, et il va passer la nuit à Dhul-Hulayfa. C'est une première pause, ils vont dormir à Dhul-Hulayfa, et au matin, lorsque le prophète se réveille, il va dire au sahaba, atani layla, on dit en français pour aller plus vite, le prophète dit que Allah m'a fait voir quelque chose en rêve, Allah m'a demandé, seul, fi hadha al-wadi al-mubarak, reste dans cet endroit béni, wa qul umra fi hajja, et de joindre un umra avec le hajj. Et dans certains autres hadiths, on verra par la suite, les sahaba, ils ne savaient pas c'était quoi faire umra. Pour eux, le hajj, ils connaissent le hajj, mais umra, non. Et donc, le prophète va dire aux sahaba que Allah m'a inspiré, a mis dans mon cœur, qu'on va combiner umra plus hajj. Ce sera donc un hajj qiran que le prophète va accomplir. Et des sahaba, eux, ils vont accomplir un hajj tamattu. Hada. Avant de faire la salat de Dhuhr, samedi, on est maintenant dimanche, on avait dit tout à l'heure 26 Dhul-Qa'da, on est donc le lendemain dimanche 27e Dhul-Qa'da, avant la salat de Dhuhr, le prophète alayhi salat wa salam, il n'est pas en état d'ihram, hein. Là il va prendre un bain et il va mettre son ihram. Et avant de mettre l'ihram, il va se parfumer, et Aisha radiallahu anha va parfumer son mari alayhi salat wa salam. Les savants disent également, si on devait s'arrêter sur chaque phrase, ce serait, subhanallah, ce serait trop bien, mais on ne peut pas se permettre. Vous voyez la relation entre l'homme, entre l'épouse et l'époux. Hein, le mari a besoin de se parfumer, c'est la femme qui vient, qui va mettre le parfum dans les cheveux Mubarak, béni du prophète sallam, dans la barbe bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va le parfumer avec du musc pur. Et du musc, le musc pur, c'est pas un musc liquide. J'en ai pas là, mais c'est un musc qui est un peu visqueux, d'accord? Et qu'on peut mettre dans les cheveux, c'est presque comme de l'huile. C'est plus visqueux que de l'huile, qu'est-ce que je dis? C'est beaucoup plus visqueux que de l'huile, c'est presque comme du gel parfois. Donc, il va mettre dans les cheveux du prophète sallam, dans la barbe, et il dit que, les hadiths décrivent qu'il y avait des traces de musc qui tombaient, qui coulaient de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enlevé. Il a fait le niya de ihram tout en laissant ses traces de parfum sur lui. Et là, on rentre dans un masla, c'est pas l'objectif. Si on a mis le parfum, le musc, avant de faire le niya et que on voit encore le parfum qui est frais sur nous, il n'y a pas de souci. Parce que ça a été mis avant le niya de ihram. On va aller un peu plus vite. Et donc, le prophète alayhi salat va mettre les deux pièces de tissu et il va faire la salat de dhahr. Musafir, bien sûr, raka'atayn, dans cet endroit. Et là, il va faire le niya de Hajj et Umrah ensemble. Et il va faire donc le niya de Qiran. Et le prophète va remonter sur la chamelle Qaswa. Fa'ahalla aydan, il recommence à dire le talbiya durant le trajet. Le prophète alayhi salatu wasalam arrive bientôt. Alors, le trajet a duré, si je ne me trompe pas, 8 jours. C'est écrit quelque part, on va le retrouver. Si je ne me trompe pas, ça a pris 8 jours de Madina, de cet endroit, jusqu'à Makkatul Mukarrama. Maintenant, le prophète alayhi salatu wasalam arrive bientôt aux alentours, proche donc de Mecca. Et il va, enfin c'est des détails, mais comme on étudie, on tend le faire, il va dormir dans un endroit qui s'appelle Virtua. Il va faire une pause, c'est près de Mecca. Et ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر. À cet endroit, il va faire la salat de Fajr. Et ensuite, il va entrer à Mecca, il prend un bain, وارتسل, il prend soin de prendre un bain. On est dimanche 4 Dhul-Hijja, il prend soin de prendre un bain pour entrer maintenant à Makkatul Mukarrama. Les savants déduisent de cette action également que quand on est à l'ihram, on peut prendre un bain, il n'y a aucun mal tant qu'on ne se savonne pas, on ne se parfume pas, bien sûr. Le prophète alayhi salat wa salam, donc on est le 4 Dhul-Hijja de l'an 10 de l'Hijra. Le prophète alayhi salat wa salam a passé 8 nuits dans le trajet et il arrive maintenant à Makkatul Mukarrama. Notre prophète va se diriger vers le Masjid al-Haram. Et il va faire le tawaf, et il va faire le sa'i entre le Safa et le Marwa, walam yahil, et il ne s'est pas rasé la tête. Parce que il a fait le hajj de Qiran. Si vous connaissez les masnads, le Qiran, on n'enlève pas le ihram. Et certains sahabas, pour certains sahabas qui n'avaient pas amené de bétail, de cabri ou de mouton avec eux, le prophète alayhi salat wa salam leur a demandé de se raser la tête. Et là, les sahabas, ils étaient un peu interpellés, ils ne savaient pas c'était quoi ça. Ils ne voulaient pas, le prophète alayhi salat wa salam leur a expliqué, et ils étaient d'accord, ils ont accepté. Donc certains ont fait tamattu', et le prophète alayhi salat wa salam, avec d'autres sahabas, ridwanullahi alayhi majma'in, ils ont fait le qiran. Ceux qui avaient leurs animaux avec eux, ils ont fait qiran. Ceux qui n'avaient pas amené de bétail, ils ont fait le tamattu'. Ils ont mis en exécution l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est maintenant le 8e Dhul-Hijjah. Fi al-yawm al-thamin, le 8e Dhul-Hijjah, ce qu'on appelle yawm al-tarwiyah, le prophète alayhi salat wa sallam se dirige vers Mina. Et arrivé à Mina, il va faire la salat de dhahr. Si vous êtes d'accord, on va aller un peu vite parce que les étapes du hajj, c'est des choses plus ou moins connues. Donc on va essayer de passer en revue que l'essentiel. Le prophète alayhi salat wa sallam arrive à Mina, il fait la salat de dhahr, il fait la salat de l'asr, de maghrib, de isha, il dort à Mina. Et le lendemain, il se réveille pour faire la salat de Fajr. Et c'est ça la sunna. On déconseille fortement les gens qui arrivent à Mina d'aller directement à Mecca, à Arafat le soir pour arriver plus tôt. La sunna. On va au Hajj, subhanallah. On met la sunna en pratique. Le prophète a dormi donc à Mina. Et le lendemain, après le Fajr, il est parti à Arafat. Donc, le matin, le prophète alayhi salat wa salam se réveille. On est donc le 9e de l'Hijja. Il va, après avoir accompli 5 prières à Mina, il va maintenant, il attend, ثم مكث قليلا, il attend un peu, et le soleil s'est levé, حتى طلعت الشمس, فأجاز حتى أتى عرفات. Il va quitter Mina, et il va arriver à Arafat. Arrivé à Arafat, il avait donné les instructions aux sahaba de monter une tente pour qu'il puisse s'adonner au ibad. Lorsqu'il arrive, la tente est déjà montée, un endroit qui s'appelle Namira, où maintenant il y a une masjid, le masjid Nabira, qui est très connu. Fanazala biha, le prophète s'est arrêté là, et à cet endroit, il est resté quelques instants, jusqu'au zawal. Hatta idha zalat ash-shams, au Zawan, il a demandé aux Sahaba de ramener sa chamelle Qaswa. Il est monté sur sa chamelle. Fa'ata batn al-wadi, et il s'est dirigé vers le centre, le milieu de la vallée. Pourquoi le milieu de la vallée? Parce que de cet endroit, il peut voir tout le monde. Il a un visuel sur l'ensemble des personnes qui remplissent la vallée de Arafat, la plaine, pardon, de Arafat. Et Al-Mubarak Fawri dit qu'il y avait à peu près, bon, les chiffres sont extrêmement précis, on va dire qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient présentes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sur la qaswa, sur la chamelle, il va dire, Ayyuhannas, oh vous qui êtes présents, Isma'u qawli, écoutez ce que je vais vous dire, fa'inni la adri, la'alli la alqaakum ba'da ami hadha, bihadha al-mawqifi abada. C'est parce que je pense que vous ne me verrez plus de cet endroit. C'est la dernière fois que vous me voyez dans cet endroit, donc écoutez bien ce que je vais dire. Et un autre savant qui a fait un sirat magnifique sur la vie du Prophète, il a dit que fa sakata dunya yasma'u kalaman yasma'u ila kalamihi sallallahu alayhi wa sallam. Les termes sont magnifiques. Il a dit les 100 000 personnes qui étaient présentes, ils ont fait preuve d'un silence remarquable. C'est comme si que le dunya s'était tu pour écouter les dernières paroles, le dernier sermon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les adresser. Et dans ce sermon qui est historique, hein, qui a été traduit dans toutes les langues, et des livres ont été écrits sur les enseignements du sermon d'adieu, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam va parler des biens, va parler des droits du croyant, hein, de le fait que de ne pas porter atteinte physiquement à un mu'min, ni porter atteinte moralement, psychologiquement à un croyant, ni porter atteinte à ses biens. Le prophète alayhi salatu wassalam va bien expliquer qu'à partir de maintenant, tout ce que vous avez connu dans la jahiliya, dans l'ignorance, c'est terminé. Tous les avantages, tous les droits, toutes les injustices, on pourrait plutôt dire, que les tribus arabes s'étaient appropriées dans la jahiliya, c'est terminé. Nous marchons maintenant selon les ordres d'Allah et de son prophète. Et là, toutes les tribus arabes entendent ce message, parce que la jahiliya, l'ignorance, c'était pas que à Mecca, c'était à Mecca, c'était à Madina, c'était dans toute la péninsule arabe où les gens vivaient à l'époque de l'ignorance. Il dit que tout ça, c'est terminé. Maintenant, nous allons suivre l'ordre d'Allah et ma sunna. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va donner pas mal de conseils. Là, on chante de support, il y a un savant qui a écrit un livre très bien qui s'appelle Docteur Mahdi Rizqallah, il a un bon nom en plus, et il a résumé, bon vraiment le résumé c'est presque insolent parce que chaque point peut être développé, on peut écrire un livre, des savants écrivent des livres sur le Hajjat al-Wada', on va dire qu'on va résumer le Hajjat al-Wada', comme on veut essayer d'avancer en 13 points. Premier point, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler des droits du croyant concernant son corps, ne pas tuer un croyant, concernant ses biens et concernant son honneur. Le prophète alayhi salatu wassalam va rappeler que le volm, l'oppression est haram. Le prophète alayhi salatu wassalam va rappeler que le riba, l'intérêt, l'usure est haram. Le prophète alayhi salatu wassalam va insister sur les droits des femmes. Il va rappeler quels droits l'épouse a sur son mari et quels droits l'époux a sur son épouse a sur sa femme. Le prophète alayhi salatu wassalam va rappeler, va recadrer également les règles concernant al-miraf, l'héritage. Vous savez que chez les Arabes, il y avait une grande injustice. La femme ne pouvait pas hériter, ainsi de suite. Le prophète va dire que, par exemple, on ne peut pas faire une donation à un héritier. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. Et il faut se calquer sur les ayats du miraf, les versets du Coran qui décrivent comment distribuer, comment partager l'héritage du défunt. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le septième point si je ne me trompe pas, va rappeler que, et ça c'est un hadith même, que le bon croyant c'est celui qui peut faire confiance, c'est celui à qui on fait confiance, c'est celui qui lorsqu'on est avec lui on sait qu'on est en sécurité, que ce croyant, ce frère musulman, il ne te fera aucun mal, que quand je suis avec telle personne je sais que lui il va pas me faire un coup bas, il va pas m'insulter, il va pas être hypocrite, il va pas me jouer un sale tour derrière mon dos, j'ai confiance. Ça c'est les qualités du croyant. Ça me va rappeler que le muhajir, le vrai hijra, l'émigration, c'est quand on quitte les péchés, quand on fait un cheminement du monde des péchés vers Allah Azza wa Jal. Ça c'est le plus beau, la plus belle des émigrations, le plus beau des hijras. Le prophète alayhi salatu wassalam va dire que le mujahid, attention c'est des mots qui font peur, le vrai jihad c'est quoi? C'est lorsqu'on va lutter contre le nafs, lorsqu'on va lutter contre notre ego, nos passions, nos pulsions pour Luttez donc contre les péchés et les passions pour se conformer aux ordres d'Allah, pour se plier aux ordres et aux interdits d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le véritable effort qu'on fait sur soi. Le prophète alayhi salat wa salam a rappelé que celui qui doit de l'argent, qui a un amana, il doit le faire rapidement, de ne pas laisser trop longtemps les amanas dans l'expression, dans notre dos. Le prophète alayhi salat wa salam va rappeler également qu'il est interdit de mentir à son propos. Et que celui qui ose raconter quelque chose qu'il n'a pas dit, et l'attribuer donc, que la personne prépare dès maintenant sa place de le Jahannam. Mise en garde sévère. Je vais vous expliquer c'est quoi la religion. Je vous ai déjà expliqué tout ce qu'Allah a révélé. N'en rajoutez pas. Ne dites pas ce que j'ai pas dit, autrement préparez-vous à rencontrer le Jahannam, le feu de l'enfer. Enseignement de Prophète sallam, du serment d'adieu. Le Prophète alayhi salatu wassalam va rappeler aux croyants que je vous ai laissé deux choses, le kitab et la sunna. Le Coran, parole d'Allah, et mes paroles à moi, la sunna du Prophète sallallahu alayhi wasallam. Restez accrochés à ces deux cordes, ces deux bases, jamais vous ne serez égarés. Le Prophète alayhi salatu wassalam va rappeler aux musulmans, vous êtes des frères. Il y a plusieurs tribus qui sont présentes. Il y a des nobles, il y a des esclaves, descendants d'esclaves affranchis, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des ahmars, il y a des aswads, il y a de toutes les races qui sont présents. Vous êtes frères en islam parce que de votre cœur vous avez la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il va rappeler également qu'il est important amara bis-sam'i wat-ta'a, il faut obéir aux dirigeants. Obéissez au amir, quelle que soit la condition sociale. Le prophète dit, même si un jour votre amir était un noir, un homme de peau noire, vous devez l'obéir. Chose qui était inconcevable de la société à Mecca. On ne va pas dire que c'est une société raciste, mais c'est une société où les familles nobles dirigeaient. Et quand on parle de familles nobles, c'était les plus hauts parmi les Quraysh. Donc la personne de peau noire, c'était des gens venus d'Abyssinie, des descendants d'esclaves. Donc c'était inimaginable qu'eux un jour pouvaient commander. Le prophète dit que même si un jour un de vos frères en islam, de peau noire, descendant d'esclaves, il devient votre amir, vous l'écoutez. Parce que le amir se doit d'être respecté, et on doit écouter ce que le amir dit. Le prophète alayhi salatu wassalam, avant dernier point, va rappeler qu'il n'y a pas de supériorité entre les gens si ce n'est par la taqwa. La seule chose qui distingue les gens, c'est la piété qu'il y a dans le cœur. Et enfin, le prophète sallam va donner des conseils concernant les esclaves. Ceux qui ont encore avec eux des esclaves, et esclaves entre guillemets, parce que l'islam a lutté contre l'esclavage, contrairement à d'autres religions, et on en connaît. L'islam a lutté contre l'esclavage, a donné toutes les vertus, les récompenses pour celui qui va libérer un esclave. Le prophète sallam va dire une parole, et je vous assure, celui qui entend ça à notre époque, il va réfléchir un peu mieux sur le terme d'abolition d'esclavage. Aft'imouhum mimma ta'kulun, waksouhum mimma talbisoun. Si Allah vous a donné des frères, il les a appelés des frères, à votre service, ils doivent manger avec vous de ce que vous mangez. C'est-à-dire que quand vous passez à table, l'esclave en guillemets passe à table avec son maître. Il doit mettre les mêmes vêtements que vous. C'est ça la définition de ce qu'on appelle entre guillemets l'esclave. Comment le prophète donne tellement de droits qu'il devient votre propre frère en islam. Donc le prophète va donner à peu près, on peut résumer, 13 ta'limat, 13 enseignements qui résument la spiritualité, les a'mal. Il y a d'autres points que Moubarak Fouri reprend et d'autres n'ont pas repris. Il va donner des conseils concernant le salat, la zakat, le saum et maintenant le hajj, les piliers de l'islam. Donc un enseignement général avec des phrases courtes. Très simple. Et c'était là une particularité du Prophète sallam. Lorsqu'il parlait, tout le monde comprenait. Même le arabe, même le bédouin, qui n'a pas trop appris, à l'école, ils n'ont pas d'école, il n'a aucun niveau d'éducation. Quand Mohammed sallam parle, il comprend. Et tout le monde, il ressort avec des acquis. Et qui peuvent être mises en pratique. Vous avez dit tout à l'heure que le but, c'est pas de faire un discours extraordinaire, éloquent. Le but, c'est des paroles simples qui touchent les cœurs et qui se transforment en amal, en pratique. Et c'était là une qualité de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les qualités spirituelles, mais également les qualités humaines, ont été véhiculées dans ce Hajjatul Wada', dans ce serment d'adieu. Et je vous assure que ce serment d'adieu, on pourrait l'inclure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du citoyen. Ça requinquerait cette déclaration, parce que toutes les bases de insaniya, les bases de l'humanisme, de la liberté, l'égalité, la fraternité, l'amour pour son prochain, on les retrouve dans ce serment d'adieu que le prophète alayhi salatu wassalam a délivré à plus de 100 000 sahaba. Le 9e de l'Hijja. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam eut terminé de faire ce khutbah, nazal, lorsqu'il est descendu de sa monture, immédiatement nazala alayhi qawluhu ta'ala al-yawm, maintenant, aujourd'hui. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, en ce sens, aujourd'hui je vous ai parachevé la religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, que les bienfaits sont parachevés également. Wa raditu lakum al-islam adina, que c'est l'islam qu'Allah a choisi et qu'Allah accepte pour chaque croyant. Donc quand le prophète a expliqué c'est quoi l'islam, il a résumé, c'est là que ce verset a été révélé, qui prouve que maintenant la propagation elle est faite entièrement. Et lorsque ce verset est révélé, Umar al-Farouq, Umar radiallahu anhu, entend le verset « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum » et ses oreilles, son attention était portée sur le terme « Akmaltu ». « Al-Ikmal » ça vient de « Al-Kamal ». « Al-Kamal » c'est la perfection. Umar ibn al-Khattab s'est mis à pleurer. Le sahaba dit « Pourquoi tu pleures ?» C'est un verset qui au contraire montre la perfection de l'islam. Dit « Innahu laysa ba'd al-Kamal illa al-Nuqsan » lorsqu'une chose atteint son apogée, après un moment donné, la chose va décliner jusqu'à disparaître. Il avait compris que maintenant la religion est complète. Maintenant Allah atteste que tout est propagé. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission va bientôt prendre fin. Il va maintenant retourner vers Allah azza wa jal. Umar ibn al-Khattab, à ce moment précis, il a une lueur de compréhension. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera mort, il va mourir, Umar ne comprendra strictement rien. Parce que le choc sera tellement violent. Le choc sera tellement violent que même Umar, avec le ilm qu'il a, les savants disent que Umar ibn al-Khattab représente nisful islam. La moitié de l'islam, c'est Umar ibn al-Khattab, tellement il avait le ilm. Mais malgré ce ilm qu'il avait, qui était supérieur à presque l'ensemble des sahaba, lorsque le prophète a quitté ce dunya, Umar n'a rien compris. Il ne savait plus quoi dire, il ne savait plus qui écouter, il ne savait même plus, il ne maîtrisait même plus ses paroles. Il était devenu dangereux, menaçant, parce que ce qui vient de se passer, ça dépassait l'entendement humain. Donc on verra ça dans un instant, inshallah. Donc Umar ibn al-Khattab a compris que c'était là le premier message, que la mission est parachevée, elle est complétée. Après le khutbah du 9e de l'Hijja, le khutbah de Arafat, Bilal radiallahu anhu a donné le adhan et le prophète alayhi salatu wassalam a fait donc la prière, salat de Zohr et de Asr, et il n'a pas fait de prière entre les deux, et le prophète salam est hatta atal mawqif. Il y a eu donc le wukuf, qu'on appelle proprement le wukuf d'Arafat, a commencé après l'accomplissement de Zohr et de Asr, le prophète salam est donc parti dans l'endroit de Arafat, wastaqbala al-qibla, il est resté orienté vers la qibla, falam yazal waqifa, il est resté debout jusqu'au coucher du soleil, depuis après Zohr jusqu'au coucher du soleil, le prophète alayhi salatu wassalam est resté debout en face de la qibla en train de faire du'a. Prophète sallam, il suffit qu'il demande une fois pour qu'Allah l'accepte, tu dis ou non? Mais ça montrait comment le prophète sallam faisait des efforts dans chaque amal saliha, dans chaque bonne action. Donc il a passé toute l'après-midi debout en train de faire les invocations d'Allah azza wa jal. Hatta raba, jusqu'au coucher du soleil. Et là, il a demandé à l'ensemble des musulmans de plier bagages, de ramasser les affaires et de prendre la direction de Muzdalifa. On est toujours le 9e de l'Hijja, on est maintenant au soir. Arrivé à Muzdalifa, le prophète alayhi salatu wassalam va faire Maghrib et Isha, donc combiné bien sûr, et le prophète alayhi salatu wassalam va se reposer. Les savants disent également que quand on arrive à Muzdalifa, il n'y a pas besoin de faire la course des cailloux, ce n'est pas l'objectif principal. Et Muzdalifa, ce n'est pas non plus une nuit pour faire tahajjud, non, c'est une nuit pour dormir. C'est une nuit pour prendre des forces, parce que le lendemain, ça va être une journée chargée. Avec le jamarat, avec raser la tête, l'udhiya, le dam, et aller à Mecca, et ainsi de suite. Donc, le prophète sallam a passé la nuit, donc il a dormi la nuit à Muzdalifa, hatta tala al-fajr, jusqu'au matin, où il a accompli la salat de Fajr. Ensuite, après la salat de Fajr, il est monté sur Al-Qaswa, sur sa chamelle, hatta ata al-mash'ar al-haram. Et le mash'ar al-haram, donc c'est un endroit à Muzdalifa, et à notre époque, il y a une mosquée qui a été construite. Mais je pense que personne n'a pu visiter cette mosquée. Personne, parce qu'on ne peut même pas s'en approcher. Et vu les camps où on va, nous, quand on va au Hajj, ce n'est pas du tout près de Mash'al al-Haram. Donc, mais à cet endroit, le prophète alayhi salatu wassalam s'est arrêté un jour, quelqu'un veut faire un Hajj authentique, qu'il fasse tout à pied. Et que le matin, après Fajj, qu'il aille vers cette zone où il y a cette mosquée. Et le prophète alayhi salatu wassalam fasse taqbala al-qibla. Il s'est dirigé vers le qibla, il a fait du'a, wa kabbarahu, wa hallalahu, wa wahadahu. Tout ça, le prophète, il prend encore la peine de faire. Il fait le takbir, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, il dit la dernière fois qu'Allah, il dit la ilaha illallah, tahlil, il dit wahad Allah, il dit la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, il a fait le dhikr, il a fait dua, jusqu'à ce qu'il y ait, hatta isfarra jiddan, jusqu'à ce que, un peu avant le shuruq, jusqu'à ce qu'on voit une lignée jaune-orange dans le ciel, un peu avant le shuruq, un peu avant le lever du soleil. Et là, le prophète alayhi salat wa salam, fadafa'a, il a quitté Muzdalifa, il va maintenant à Mina, on est le 10 Zulhijja. Arrivé à Mina, il quitte avant le lever du soleil, il quitte Muzdalifa avant le tulu' al-shams, avant le lever du soleil. C'est-à-dire quand il commence à faire orange, jaune orange, il arrête le wukuf de Muzdalifa, il monte sur sa monture et maintenant il quitte Mina. Et il quitte Muzdalifa pour se diriger vers Mina. Arrivé à Mina, le prophète alayhi salat wa salam va vers le Jamaratul Kubra, la grande stèle où il va lapider de 7 pierres. Ensuite, le prophète alayhi salat wa salam, thumman sarafa ila al-manhar, il va donc égorger le dam donc de Qiran, le prophète alayhi salat wa salam va égorger de sa propre main 63 badana. Vous avez vu, c'est quoi un badana? C'est un chameau. 63 chameaux. Et vous savez, égorger un chameau, c'est très compliqué. Et on est peut-être des spécialistes de bat-bœuf à terre, mais un chameau, c'est une autre histoire. Ça ne s'attache pas, ça se fait debout. C'est dangereux, et ainsi de suite. Et c'est très physique. Le prophète, preuve de la force physique qu'Allah avait accordée à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète va égorger tout seul 63 chameaux, et il va donner le reste à Hazrat Ali, radiallahu anhu, qui lui va couper 37 sab'a wa thalathuna badana, il va couper lui 37 chameaux, tamam al-mi'a, ce qui fait 100 chameaux que le prophète alayhi salatu wa salam a sacrifié en son nom, au nom des sahaba, au nom des personnes présentes, au nom de sa umma. Tamam al-mi'a. Et le prophète a demandé que de chaque animal on prend un peu de viande et qu'on fasse cuire afin que les gens puissent également manger. Et après le prophète alayhi salat wa salam, donc il y a l'étape où il s'est rasé la tête, donc là les hadiths ne donnent pas exactement précision c'est à quelle étape, mais on retient un doua que le prophète alayhi salat wa salam a demandé à Allah azza wa jalla, rahimallahu al-muhalliqin, qu'Allah envoie sa rahma sur ceux qui se sont rasés la tête en 3 fois et la 4e fois pour ceux qui se sont couper les cheveux. Les savants disent que quand on va en Umrah, qu'on se rase la tête quand même. Il y a des gens qui vont là-bas et disent que oui, mais moi je fais style et tout, moi arrivé au travail, je ne peux pas me présenter coco rasé, on va se moquer de moi et tout. Donc je dis au coiffeur, comme ça, un petit peu, pas trop, une phalange et tout. Ya ikhwan fillah, on fait ce sacrifice pour aller vers la maison d'Allah. Azza wa Jal, on connaît les vertus que pour chaque brin de cheveux qui tombe, on a un péché qui est effacé. On va chercher encore le style, la coiffe, pour pas être démodé quand on arrive à la réunion. Là, Allah, qu'on se rase la tête, on aura l'intégralité, inshallah, des péchés qui seront effacés. Et 3 fois, le prophète a fait doua pour ceux qui se rasent la tête, et une seule fois pour ceux qui font qasar, qui se couplent les cheveux. Le prophète alayhi salat wa salam se dirige vers Makkah, vers le haram, où il va faire le subhan, le tawaf, ainsi que le sa'i, et il va boire de l'eau de zamzam. On est toujours le 10 de l'Hijja, ça correspond à quoi comme fête? Eid al-Adha, Bakrit, donc c'est un jour de fête. Il y a une prière, il y a donc un khutbah. Le prophète alayhi salat wa salam va faire un sermon, un khutbah. Donc il y a eu le khutbah de Arafat, il va y avoir maintenant le lendemain le khutbah qui est différent du 10e de l'Hijja, le khutbah de ce qu'on appelle ici Bakrit, du Eid al-Adha. Et dans ce khutbah, là aussi, les gens sont présents. Bayna qa'im wa qa'id. Il y a des gens qui sont debout, des gens qui sont assis. Le prophète alayhi salat wa salam va rappeler tout ce qu'il a dit la veille dans le khutbah de Arafat et il va rajouter certains points et parmi ces points, inna zaman qad istadara. Il va parler du temps qui passe. Il va parler des mois, de l'année, combien de jours. On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de préciser que les mois sont composés de temps, jours? Il faut respecter le calendrier lunaire parce que dans le jahiliya, à l'époque d'avant l'islam, les gens faisaient le hajj n'importe quand. Il décalait de 15 jours, le hajj pouvait être accompli pendant le mois de Dhul-Qa'da ou pendant d'autres périodes. Le prophète dit que maintenant, on va suivre ce calendrier. Et quand le prophète va faire le hajj de l'ensemble de la péninsule arabe, cette fois-ci va coïncider, c'est Allah qui a voulu comme ça, va coïncider avec la bonne période. Dit que maintenant, on respecte le calendrier lunaire, il n'y aura aucune autre date qui sera prise en considération par l'ensemble de la Ummah pour qu'il y ait une seule vision de la lune et un seul jour ou la même période de l'année où on accomplit le Hajj. Et c'est pour ça que le Prophète demande aux Sahaba, Ayyu shahrin hada, il demande que les Sahaba attestent qu'on est dans le mois de l'Hijja, où est-ce qu'on est, quel endroit, ainsi de suite, des questions pour qu'ils comprennent l'importance de l'endroit où ils sont et l'importance de l'action qui est accomplie à ce moment. Et le Prophète alayhi salatu wasallam va dire pour compléter, n'oubliez pas, وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ, n'oubliez jamais qu'un jour vous allez rencontrer votre Seigneur, فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ, et il vous interrogera sur vos actions. Wallahi al-Azim, la personne qui comprend ces deux phrases et qui réalise l'impact de ces deux phrases et qui les met en pratique dans sa vie, il devient le meilleur des mu'mines. Il n'a pas besoin d'un discours de deux ans et demi là, Wallah. Que n'oubliez jamais qu'un jour vous allez rencontrer votre Seigneur et qu'Allah nous posera des questions concernant l'ensemble de nos a'mal. C'est le message qu'il a délivré lors du khutba du jour de Eid al-Adha. Et il demande aux sahaba, Ala hal ballaghtu, est-ce que j'ai propagé? Ils ont tous dit, ô prophète d'Allah, on atteste que tu as propagé ta mission. Il va dire, Allahumma shahad, ô Allah, sois témoin. Fal yuballigh ash-shahid al-ghaib. Maintenant que les personnes qui sont présentes prennent la responsabilité de propager à ceux qui sont absents. Entre parenthèses, les ulama disent également qu'à partir de ce moment, intaqala amru tabligh ilayna, il devient un devoir maintenant pour chaque croyant de continuer la chaîne de propagation, propager les messages que le Prophète a délivrés aux Sahaba, qui ont délivré aux autres générations. C'est un amana sur nos épaules également, à nous de continuer le travail de da'wa, d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Ça devient une obligation pour chaque croyant qui a la possibilité de le faire. Le Prophète va dire également que sachez que Shaytan n'a plus d'espoir d'être adoré dans cet endroit. Mais walakin ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. Mais Shaytan va être obéi parfois par des personnes qui ne vont pas considérer les péchés, qui vont minimiser les péchés, et Shaytan sera entièrement satisfait de cela. C'est un message très important. Il y a des gens qui vont minimiser l'impact des péchés, et pour Shaytan c'est déjà bien. Il accepte, il le prend quand même. Les gens qui ne vont pas donner d'importance aux bonnes œuvres et qui vont déconsidérer la gravité des péchés, ben Shaitan sera satisfait de ces gens. À nous d'analyser, est-ce que je ne fais pas partie de ces gens? Quand je ne contrôle pas mon regard, ou quand j'écoute ce qui est haram et que je me dis que ça c'est un péché, nous fait besoin, Allah pardonne. Mais c'est quand on rentre dans cette spirale, on déconsidère, on minimise les péchés, c'est là que Shaitan est satisfait de nous. On veut qu'Allah soit satisfait de nous, que Shaitan soit satisfait de nous. À nous de prendre les bonnes décisions pour voir qui est-ce qu'on veut obtenir le rida, le contentement. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam va rester à Mina le 11, le 12 et le 13, ayyam at-tashriq, et chaque jour, wa yu'allim ash il va enseigner aux musulmans comment faire le hajj. Khudhu anni manasikakum, cette phrase, ce hadith célèbre, regardez comment je fais le hajj et faites de la même façon, vous aussi faites pareil. Et il va enseigner sunan al-huda, il va enseigner le din à l'ensemble des musulmans, et il va faire revivre millata Ibrahim, il va faire revivre la tradition du monothéisme pur de Ibrahim alayhi salam. Wa yamhu athar shirk, il va enlever tout ce qui reste comme trace de polythéisme du que des gens, et faire en sorte que tout ce qu'il y avait avant, les mauvaises habitudes de l'ignorance, tout ça s'est oublié pour que les gens suivent Coran et Sunna uniquement. Pendant Ayyam al-Tashriq, pendant ces jours-là également, le prophète alayhi salatu wassalam va faire un khutbah. Il y aura donc un troisième khutbah pendant le hajj, ce sera pendant les Ayyam al-Tashriq, où le prophète va résumer ce qui a été dit la veille dans le khutbah de Eid al-Adha, qui était déjà un résumé de ce qui avait été dit le jour d'avant dans le khutbah de Arafat. Et pourquoi est-ce qu'on mentionne ce khutbah? Après le khutbah du jour de Ayyam al-Tashriq, c'est là qu'Allah Azza wa Jal va révéler إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Et il y avait le commentaire, je ne sais pas, je l'avais mis quelque part, et ce verset également, ça fait partie des versets qui prouvent que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend fin. Abdullah ibn Abbas, un sahaba, Omar ibn Khattab, je ne trompe pas, avait demandé à Abdullah ibn Abbas de commenter qu'est-ce que tu comprends à travers ce verset. Les autres sahaba, ils ont dit que ben, ça veut dire que au début il y avait peu de croyants, ensuite alhamdoulilah les gens sont entrés dans la religion, on doit être reconnaissant. Ibn Abbas a dit oui, mais ça veut dire également que la vie du prophète alayhi salatu wassalam va bientôt prendre fin parce que sa mission c'est parachevé. Et ils ont réalisé que le plus grand savant, celui qui comprenait le mieux le Coran parmi eux, c'était cet enfant, Abdullah ibn Abbas. Quel âge avait Abdullah ibn Abbas lors du pèlerinage d'adieu? Juste une question que je vous pose, si quelqu'un peut me répondre, pour qu'on comprenne un petit peu la différence entre les gens âgés, les jeunes, pour qu'on... j'aimerais que de nos cœurs, on change un petit peu notre conception du sahaba. Pour nous, le sahaba, c'est le vieux Abu Bakr Siddiq, barbe blanc, qui est assis dans son coin avec un vêtement rapiécé, déchiré, et avec son tasbih, qui fait des kulallah du matin jusqu'au soir. Abdullah ibn Abbas, Habl al-Umma, la corde de cette Umma, un savant, grande barbe, jusqu'au nombril, qui est tout le temps dans la masjid, qui a au moins 75 ans, qui vit avec le prophète, qui est âgé. Abdullah ibn Abbas avait entre 14 et 15 ans. Et c'était déjà le plus grand. Et il allait encore devenir le plus grand alim, le plus grand mufassir du Coran. L'ensemble, on n'a pas le temps de parler de ça, mais tous les sahabas qui ont eu des missions importantes dans l'histoire de l'islam, c'était des shababs, c'était des jeunes. L'islam est une religion qui a été portée par les jeunes. Regardez juste Ali ibn Abi Talib, c'était un jeune homme quand il a pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison à Mecca pour qu'il puisse quitter Mecca et tromper les Quraysh et aller à Medina. C'était un jeune, Moussa ibn Umar, c'était un jeune homme qui a converti Medina Munawwara en entier, qui a fait rentrer le tawhid dans chaque famille, chaque maison, subhanallah. C'est-à-dire, a'mal azim, celui qui a compilé le Coran, son nom échappe. Celui qui a compilé le Coran pour Omar ibn al-Khattab, c'est également un jeune. Les actions phares de l'islam ont été accomplies par des shababs. À nous de comprendre qu'est-ce qu'Allah Rabbul Izzah attend des jeunes. Donc on revient. Donc, Idha ja'a nasrullah al-fath, et a été révélé pendant le Hajj après le khutbah que le prophète a fait lors du Ayyam al-Tashriq. Au 13e de l'Hijjah, le prophète alayhi salatu wassalam quitte Mina. Et il va rester un instant dans un endroit qui s'appelle Khaif. Et aujourd'hui, il y a une mosquée là-bas, Masjid Khaif. Là aussi, il faut être courageux pour y aller. Il y a tellement de monde. Le prophète va s'arrêter à Khaif. Et parce qu'à Khaif, il y a la tribu, grande tribu de Banu Kinana, grande tribu arabe. Le prophète va rester là-bas. Et il va même dormir là-bas. Et le lendemain, le lendemain, il va faire salat zuhr, il va faire salat asr, salat maghrib, salat isha. Et ensuite, il retourne où ça? À Madina? Non, à Haram, pour faire le tawaf al-wida'. Il reste le tawaf d'adieu, et donc il va faire le tawaf d'adieu avant de quitter Makkatul Mukarrama. Alors, là aussi, pendant le Hajj, il y a deux événements. Premièrement, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, va tomber gravement malade pendant le Hajj. Et il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, va venir lui rendre visite. Et Hajib, Sa'd, radiallahu anhu, va dire, si on retrouve le texte, il dit au prophète d'Allah, balarabi min al-waja'i ma tara. Il dit au prophète d'Allah, regarde mon état. Je suis extrêmement malade. Tu le constates toi-même. Wa ana dhu malin. Je suis un homme très riche. J'ai beaucoup d'argent. Wa la yarithuni. On va dire en français, j'ai comme héritier que ma fille. J'ai une fille et c'est elle qui va tout hériter. Au prophète d'Allah, afa atasaddaq. Ô prophète d'Allah, est-ce que tu me donnes l'autorisation de donner en sadaqa deux tiers de mon argent? Deux tiers, tout le monde connaît encore les camembert et tout. Deux tiers, c'est plus qu'une moitié. Deux tiers, c'est en pourcentage, ça fait 70%, à peu près. Hein. Deux tiers, c'est presque l'intégralité de ces biens. Le prophète dit là, non. Sahaba dit au prophète d'Allah, est-ce que je peux donner Chatrahu, la moitié de mes biens, 50% de mes biens dans le chemin. Le prophète me dit non. Il dit au prophète d'Allah, thuluth, un tiers. Le prophète me dit, oui, thuluthu kathir. Oui, mais c'est déjà beaucoup. Et le prophète m'a dit une parole, c'est ajib, c'est magnifique. Il faut que le prophète n'avait pas besoin de l'argent des sahabas. Abadan, le prophète n'avait pas besoin que le sahaba donne leur argent pour lui, pour propager la mission. C'est Allah qui lui donnait ce qu'Allah voulait bien lui donner. Il sait pertinemment que tout vient d'Allah, Azza wa Jalla. Comment est-ce que ça aurait apporté à la Oumma que Saad donnait deux tiers de ses biens dans le chemin d'Allah? Ça aurait apporté beaucoup de choses. Mais le prophète va dire une parole très intelligente qui sera pour Saad, mais qui sera également pour l'ensemble des croyants et qui montre le juste milieu, l'intelligence qu'il y a dans notre religion, la cohérence, le juste milieu qu'il y a dans l'islam. Il dit que surtout le texte innaka. Il est mieux que tu laisses ta descendance avec un peu d'argent. C'est mieux que tu laisses ta fille ou tes héritiers les mains vides et qu'ils soient eux-mêmes obligés d'aller solliciter les gens pour leur venir en aide. C'est mieux que tu leur laisses un peu d'argent. C'est pour leur honneur, pour leur izzah, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils puissent vivre et qu'ils n'aient pas à se rabaisser à aller demander de l'aide aux gens. Ça, c'est une parole très cohérente. Entre le fait de donner le chemin d'Allah, mais en même temps de regarder, de faire en sorte que on ne cause pas préjudice à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est le juste milieu que le prophète alayhi salatu wa salam fait comprendre à Sa'd radiallahu anhu. Il me dit que sache que tout ce que tu donnes le chemin d'Allah, Allah Rabbul Izzah va te récompenser. C'est pas une question de quantité, c'est le nier à l'intention. Hatta al-luqma. Une bouchée. Taj'aluha fi imra'atik. Même une bouchée de nourriture que tu vas mettre dans la bouche de ton épouse. C'est-à-dire même le petit geste qu'on va faire pour sa femme, c'est considéré comme une sadaqa et tu auras l'agrément d'Allah Azza wa Jal. C'est une très belle leçon pour nous. Très belle leçon pour les gens qui ont la main un peu lourde et tout, pour madame, ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrête pas de donner des exemples de muhabba d'amour entre l'époux et l'épouse et vice versa dans les deux sens. Donc ça c'était un événement. L'autre événement qui va se passer durant ce hajj, là aussi ça va être une ouverture, un masla pour la umma. Aisha radiallahu anha va connaître le suhaid, un état d'impureté pendant le hajj. Et ça l'a beaucoup attristée, parce qu'elle sait qu'en état de haid, elle ne peut pas, elle pensait qu'elle pouvait pas, elle pouvait rien faire. Elle n'avait pas le droit d'être ni amina, ni rien du tout. Le masla n'était pas connu. Et Allah Rabbul Izzah a voulu que la situation, que ce cas se produise maintenant, pour que ce soit ta'lim, un enseignement pour l'ensemble des femmes présentes, Badr al-Hajj, mais l'ensemble des femmes de la Ummah parmi les mu'minas. Et voyez quand le Prophète va répondre à Aïcha, Allah Akbar, vous dites franchement, la manière dont le Prophète, un jour il faudrait que quelqu'un soit, il compile ou il écrive ou il traduit ce livre, existe déjà, les échanges entre le Prophète et ses épouses. Comment est-ce que le Prophète parlait avec de la douceur, qu'Allah donne tawfiq de mettre en pratique, et à moi-même en premier. Le Prophète, alayhi salatu wassalam, il rentre dans sa tente, il voit Aïcha en train de pleurer. Il venait d'expliquer aux sahaba le tamattu, le qiran, il faut faire ci, il faut faire ça. Et Aïcha, elle entend, elle se dit que tout ça m'est maintenant inaccessible parce que je suis en état de haïd, d'impureté. Je ne peux pas faire, c'est une catastrophe. Elle culpabilise. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voit Aïcha pleurer, dit, qu'est-ce qui se passe? Elle explique, il dit, fala yadurruk. Elle dit, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème. Fakuni fi hajjik. Tu fais le hajj avec nous normalement. Fa'asallahu, inshallah, Allah facilite bientôt, tu pourras compléter les attractions. Wa innama, et voyez le réconfort. Wa innama anti min banati Adam. Tu fais partie des filles de Adam alayhi salam. Kataballahu alayki ma kataba alayhinna. Allah, ce qui t'arrive, c'est ce qu'Allah a prédestiné à l'ensemble des femmes de la race humaine, des descendantes de Adam alayhi salam. Toi, comme n'importe quelle autre femme qui ont toujours existé depuis Hawa alayhi salam. Dire que elle et le prophète salam, avec beaucoup de douceur, il va apporter réconfort psychologique, il va déculpabiliser Aïcha radhiallahu anha. En aucun cas, il va reprocher à Aïcha qu'elle est en train de ralentir le groupe. Parce que par rapport à l'état de Aïcha, qui ne peut pas faire le tawaf, le sa'i, qui ne peut pas faire le tawaf également, ben, le prophète salam doit rester. Il doit attendre. Et l'ensemble des gens qui sont venus pour le hajj, ils ne peuvent pas retourner tant que Aïcha n'est pas en état de pureté. Le prophète n'a pas dit, si c'était nous, on a dit, ouais, mais c'est vraiment le moment, il fallait prendre des précautions, il fallait faire telle chose. Maintenant, à cause de, voilà, on va rater le vol, on va rater ainsi de suite. Bref, nous, on est les premiers à critiquer quand on a impossible de critiquer. Le prophète me dit que c'est pas grave. C'est humain, ça. Comme, c'est Allah qui t'a créé comme ça, comme toutes les femmes de l'humanité. Tu n'as pas à culpabiliser. Patiente, quand tu seras en état de pureté, tu vas compléter les a'mal du hajj et puis on pourra retourner à Al-Madina Al-Munawwara. Quelques temps après, Aïcha anha, elle était en état de pureté. Le prophète va voir son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr, le frère de Aïcha anha, qui dit que accompagne ta sœur au haram, qu'elle accomplisse le umrah et qu'elle complète les rites qu'elle n'avait pas pu faire, mais avant ça, amène-la à l'extérieur du haram. Ensuite, elle pourra revenir en état de sacralisation. C'est l'endroit qu'on appelle communément de nos jours Masjid Aïcha. Et c'est là un masla pour l'ensemble des femmes qui sont en état d'impureté. Petite parenthèse, hein. Certains savants sont d'avis que ce n'est pas un miqat. Ce n'est pas un miqat. Il y a beaucoup de gens qui sont à Mecca, ils disent, bon, maman, on fait un deuxième umrah demain. Moui, allez, bon, mais haram, ça fait un deuxième umrah. Non, forme, bois de Red Bull, ça fait un haram, ça fait un umrah demain. Elle dit, ben, comment il fait? Mazida Aïcha, fait de la 4, revient. Il dit, c'est pas un miqat, ça, Mazida Aïcha. C'est un miqat pour les ma'adour, pour la femme qui a eu un état de haïd. Mais c'est pas un miqat, mutlaqan. Donc, certains savants pensent que, allez, Mazida Aïcha fait un ihram, rentrer dans l'ihram et revenir faire un umrah. Il dit, mille fois, multiplier les tawaf que faire ce genre d'action. C'était une petite parenthèse. Donc, ce masla a été révélé également en ce moment. Il est appliqué dans toutes les écoles de jurisprudence jusqu'à maintenant. Et lorsque Aïcha a pu compléter, elle est revenue voir le professeur Salam le soir. Fajina Rasoul Hassan, nous sommes venus, wahua fi manzilihi, il était dans l'endroit où il restait à Makkah, c'était pendant la nuit. Il demande, hal farrakhti? Mais là aussi, la manière de parler, c'est, ça y est, est-ce que tu as complété les actions? Il y a une douceur, c'est vrai que la langue arabe est une langue très douce aussi, mais quand le prophète s'adresse à son épouse, c'est toujours des termes mielleux, c'est toujours des termes plaisants. Hal farrakhti? Est-ce que tu as complété? Et il dit oui au prophète d'Allah, et il a donné ijaza. Maintenant, tout le monde peut bouger. Ar-Rahil, c'est-à-dire les milliers de personnes qui étaient là, ils attendaient qui? Que Aïcha ait complété. Maintenant, tout le monde peut rentrer. On retourne. Le prophète fait son Hajjat al-Wada, et le matin, après la salat de Subh, après la salat de Fajr, le prophète quitte Makkah al-Mukarrama pour rentrer à Al-Madina al-Munawwara. Et de cette façon, avec cette dernière action, le Hajj a été complété, le Hajjat al-Wada. Maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam, en rentrant à Al-Madina al-Munawwara, en route, il va s'arrêter près d'un puits, près d'un endroit qui s'appelle Ghadir Khum. À cet endroit, hadith de Zayd ibn Arqam dit que le prophète est resté chez nous, dans notre quartier de Ghadir Khum, de cet endroit, yawman, un jour, et il a fait un khutbah. Donc, khutbah à Arafat, khutbah yawm al-adhiya, khutbah ayyam al-tashriq, khutbah, c'était trois, il me semble, et la quatrième khutbah, au retour, en quittant Makkah, de cet endroit, Ghadir Khum, il va s'arrêter, et c'est un endroit où il y avait un puits, hein, d'accord. Et le prophète entre Makkah et Madina, et le prophète va délivrer quelques messages. Entre autres, il va dire, « Ayyuhan nas, sachez innama ana bashar. » Il va rappeler encore que maintenant c'est terminé. « Al-yom akmaltu lakum dinakum » a été révélé. « Idha ja'a nasrullahi wal fath » a été révélé. Il dit, « Oh musulmans, sachez que innama ana bashar. Je ne suis qu'un être humain. « Yushiku an ya'ti rasoulu rabbi fa'ujib » Il est possible que bientôt Allah envoie son messager me rencontrer et que je réponds présent et que l'ange Jibril, que Malik al-Maut vient reprendre mon âme et que j'accepte la décision d'Allah Azza wa Jal. Mais sachez que même si je pars, ça c'est moi qui rajoute en parenthèse, wa ana tarikul, mais sachez que je vous ai laissé deux choses. Il reparle encore de kitab wa sunna, de rester accroché au Coran et au hadith, et parce qu'il y a fihi al-huda wa nur, il y a la guidée, il y a la lumière dans la parole d'Allah. Fa khudhu bi kitabillah, prenez le livre d'Allah, wastamsiku bihi, accrochez-vous au Coran, mettez-le en pratique de votre vie. Les savants disent que accrochez-vous au Coran, c'est quoi? C'est lire parfaitement le Coran sur Moussallah, c'est faire taravis sans faire de faute. Je suis capable de dire yusikum Allah fi awladikum sans faire une faute. C'est bien, je me suis accroché au Coran. C'est lire le Coran avec 8, 7 déclinaisons ou 10 qira'at différents. Être un maître dans la lecture, là, wallah. Rester accroché au Coran, c'est pas uniquement le lire de façon mélodieuse. C'est vivre le Coran. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure pour la sirah. La même chose pour les versets, faire en sorte que chaque ayah pénètre nos cœurs, qu'on puisse le mettre en pratique. C'est lui le sahib du Coran. L'homme du Coran, c'est celui qui met le Coran en pratique, comme était le prophète sallam, kana khuluquhu wal Coran, sa vie, son comportement, c'était le Coran, c'était le cas également des sahaba. Donc il dit à ces gens, restez accrochés, wastamsiku bihi. Et le prophète dit que je vous donne un autre conseil concernant ahli bayti, mes proches, ahlul bayt, c'est la famille proche, le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Udhakkirukum Allah fi ahli bayti. En trois fois, le prophète dit que après ma mort, il veut dire respecter, rester proche, donner considération aux personnes qui sont propres, aux personnes de Ahlul Bayt, les personnes qui me sont proches, ma famille proche. Et après cette intervention de Radir Khom, prend la route vers Al-Madina Al-Munawwara. Immédiatement, arrivé à Madina, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam entend que les Romains s'approchent dangereusement de la frontière de la péninsule arabe. Ils étaient arrivés jusqu'en Palestine. Et quand on parle des Romains, Je ne vais pas vous donner d'équivalent. On a tous compris, c'est l'armée la plus puissante à cette époque, les Romains. Le prophète alayhi salatu wassalam prend la décision d'envoyer une armée. Pas forcément pour les combattre, mais acte de présence. Tout ça, c'était des stratégies de guerre. Il y a des fois où, certains pensaient ça encore, les salis après ça envoient un petit groupe lutter contre un groupe qui est en train de faire du tort à l'islam. Des gens disent, ben voilà, ce sont là les bases du terrorisme. Ah ben dingue, jamais de la vie. La guerre, c'était comme ça à cette époque. De nos jours, on a d'autres moyens de surveiller l'ennemi, on intercepte les mails, ou alors, je ne sais pas moi, on pirate les sites informatiques et tout. Il y a différentes façons de faire la guerre. De nos jours, ce n'est pas uniquement donner un coup de fusil, ce n'est pas uniquement ça. La guerre est beaucoup plus technologique que sur les terrains. À l'époque, c'était des jassous, il y avait des akhbar, des espions qui donnaient les messages, qui observaient ce que l'ennemi fait, et ils vont rapporter également, quand on voit un mouvement, on envoie deux ou trois personnes faire en sorte que le mouvement, que l'offensive qu'ils essaient de mener, on essaie de le tuer dans l'œuf. C'était des salia. C'était comme ça qu'on faisait la guerre. Tous les Arabes, c'était dans la culture de la guerre chez les Arabes, et les Arabes faisaient la guerre tout le temps. Les Aous, les Khazraj, les tribus, on n'était jamais en paix dans la péninsule arabe. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de batailles, parce que aujourd'hui on est tranquille, on ne sait pas demain, il y a cette tribu qui vient, qui débarque, qui nous envahit, qui tue tout, qui brûle tout, qui prend tous les biens, qui tue nos enfants, qui réduit nos femmes aux esclaves. C'était la situation des Arabes à cette époque, de Jahiliya, jusqu'à ce que l'islam s'installe dans chaque tribu et il trouve l'amn, il trouve la tranquillité, la paix. Et l'islam a amené la paix, et non pas la guerre, dans la péninsule arabe. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam se doit de réagir. On a vu notre prophète, un homme éloquent, un homme qui touche les cœurs, un mari exemplaire, mais là il devient le chef de l'armée des musulmans. Il envoie une armée aux frontières de, alors des régions, Al-Balqa, aucun rapport avec les Balkans. Al-Balqa, c'est une région en Palestine, et à Allah Moustan, qu'Allah nous parle, c'est des régions qu'on ne connaît même pas. Et Allah donne la possibilité un jour d'être là-bas. Ou à Ad-Darum, min ard Palestine, deux endroits. De Palestine, le Prophète Sassam prépare une armée qui sera dirigée par Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu. Et là, ça pose problème pour certaines personnes. Parce que, quel âge, on parlait des jeunes tout à l'heure. Vous savez quel âge avait Oussama ibn Zayd? 18 ans. 18 ans. Et vous savez combien de personnes étaient sous le commandement de Oussama? 3000 personnes. Et vous savez, il y avait qui dans l'armée de Oussama? Il y avait Omar ibn al-Khattab. Il y avait les grands sahaba, même parmi les muhajirins, c'est-à-dire les gens qui ont combattu à Badr. C'était les meilleurs des croyants. Ils étaient sous le commandement d'un d'un jeune homme de 18 ans. Et beaucoup de, et certains, ceux qui, subhanallah, les grands sahaba, ils avaient compris que le prophète, il prend une décision, il y a la hikmah, il y a une sagesse dedans. Mais d'autres se sont posé des questions, tous ceux qui venaient se convertir, ils comprenaient pas le prophète, a fait un khutbah, un sermon, il expliquait que son père était quelqu'un d'exceptionnel. Zayd, radiallahu anhu. Et que lui également, c'est quelqu'un qui a des qualités que j'aime plus que tout le monde, et c'est pour ça que je le mets amir. Et les savants disent également, voyez, le amir se doit d'être ferme. Il a pris une décision, même si les gens contestent, à partir du moment où il sait que c'est une décision juste, où il n'y a pas il n'y a pas d'injustice, où il n'y a pas de manquement de cette décision, il doit rester ferme et ne pas se laisser influencer. Donc, il dit que ce sera Oussama et personne d'autre qui sera le responsable de cette armée qui doit aller montrer la présence des musulmans, effrayer les Romains, pour qu'ils comprennent que on ne va pas rentrer dans la péninsule arabe comme ça. On a commencé à nous approcher de la frontière de la Palestine, et il y a 3000 combattants qui sont déjà à la frontière, ils sont là, ils attendent. Ce qui veut dire que là-bas, il y en a encore plus. Donc c'était un message important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé aux Romains par l'intermédiaire de Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu. Sauf que, l'armée de Oussama radiallahu anhu s'apprête à quitter Madina al-Munawwara. Il stationne dans un endroit qui s'appelle Al-Jurf, qui existe toujours. Il s'arrête à Al-Jurf, qui est encore dans la frontière de Madina. Et arrivé à Al-Jurf, avant de quitter Al-Jurf, de quitter la frontière de Madina, lui apparvient la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très malade, est gravement malade, et qu'il est peut-être dans les derniers jours de sa vie. Et l'armée s'est arrêtée. ils n'ont pas pris la direction de la Palestine, ils sont retournés à Al-Madinah Al-Munawwara pour assister, pour être présent au cas où si le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait mourir. Ça faisait deux jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé l'armée, ils étaient à Al-Jurf, ils sont retournés à Al-Madinah pour rester auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a décidé que cette armée-là, elle sera en fait envoyée définitivement par Abu Bakr al-Siddiq et non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à partir de ce moment-là, la santé du prophète sallallahu alayhi wa sallam va décliner et jour après jour, il va perdre ses forces et ce sera bientôt le moment pour lui de quitter cette dunya. Donc là, on a terminé la première partie de cette intervention concernant donc le Hajjat al-Wada' et on est à 1h42. La deuxième partie, elle est trois fois plus longue que celle-là. Donc on a une décision à prendre. Si vous voulez faire, on fait. Moi, j'ai déjà fait 3 heures de temps de route, donc c'est bon, j'ai vécu, j'ai fait le pire. C'est à vous de voir. Si vous êtes fatigué, si les gens ne sont plus attentifs, ou vous avez mal au dos, moi je suis bien assis, hein, jazakallah khair. Si on décroche, moi je ne me permettrai pas d'enseigner ou de parler du décès de Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quelque chose qui touche nos cœurs de façon. Je ne résumerai pas ça. En 10 minutes, non. Il faut vraiment le raconter avec le maximum de sincérité, de ikhlas, et vraiment véhiculer le message comme les sahaba, radhiyallahu anhum ajma'in, nous l'ont présenté. Parce que c'est l'événement le plus attristant pour la umma. Maintenant, on laisse notre amir décider. Est-ce qu'on enchaîne ou 1h42, c'est la limite d'attention de tout le monde. Et en termes de, il est quelle heure, hein? Il est 22h 22h30, moi, il n'y a pas de souci, je suis là, je suis présent, il n'y a pas de problème. Riyad ?
Moi, il n'y a pas de problème.
D'accord, avec qui fait ma chevra ? La Tamir au fond ? Non, la deux Amir là. Amir Sab ? Alors, mon Aïssima le sait qu'il est là. Moi, je suis disponible, je suis là, alhamdulillah. Si vous dites au continu, moi, mon livre est là, je prépare mes notes et on démarre. Mais je vous garantis, cette partie, elle est plus longue. Elle est plus longue et c'est la partie la plus touchante de la sire. En même temps, je vous fais terrible, d'accord? Il n'y a rien de plus poignant, il n'y a rien de plus magnifique que d'écouter les derniers jours et de voir comment est-ce que le professeur Sam a vécu ces derniers jours de ce dunya. Mais ça va être long. Il faut 1h30 au moins. Ce qui nous ramènerait, hein, là il est quelle heure lundi? 10h30, 11h30, minuit. Mon Ismaël, qu'est-ce que tu penses? Amisab, vous suivez la décision de mon Ismaël, Maï Farouk, vous suivez Riyad, est-ce que je devais faire le mashfira, hein, parce que si je démarre, je m'arrête pas. Parce que quand on commence, il y a un livre, d'accord, je vous explique ce que les savants, les vrais ulama, les vrais savants, ceux qui ont donné leur vie pour le din, ceux qui ont consacré 25, 30, 40 ans à apprendre talabul ilm avec les pieux prédécesseurs, à voyager de pays en pays, de région en région pour écouter un hadith, eux c'était les ulama, eux c'était les savants, eux ils avaient les qualités du ilm dans leur vie. Nous on est des bricoleurs, qu'Allah nous pardonne nos manquements. Il y a des fois je me dis on ne mérite même pas le titre, mais on essaie de faire. Donc nous on ne fait que traduire. C'est un livre de 204 pages. Un livre de 204 pages qui a été écrit uniquement, qui commence, et le livre, c'est pas une grosse introduction, c'est la sirah. Il démarre directement. Ibn Kathir se base sur At-Tarikh Ibn Kathir, dit Qala al-Hafiz Ibn Kathir, rahmahullah, et moi je commence à la première ligne de la première page, et je termine à la fin. Donc c'est méchant. D'accord? Ibn Kathir, rahmahullah, il raconte les événements qui ont lieu en l'an 10 de l'Hégire, et l'événement le plus marquant de cette année, et pour l'histoire de l'islam, c'est le départ d'Al-Habib, le départ de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal l'a repris, mais ce n'est pas un simple décès, c'est la concrétisation du verset wa lal akhiratu khayrun laka min al-ula. Allahu akbar, que le akhira est mieux pour toi que ce dunya. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatar, Allah va te donner et tu seras satisfait de ce qu'Allah va te donner. C'est par ces termes que Ibn Kathir rahimahullah de tarikh, dans son livre de Tarikh al-Bida' al-Nihaya, il commence la description de l'année 10 de l'Hégire, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter ce dunya. Et il commence en décrivant que, il dit, la parole est magnifique, la phrase, laqad kanat wafatur rasul sallallahu alayhi wa sallam a'zamu hadath مر بالمسلمين فأذهل عقولهم وزلزل أركانهم وأفقدهم الوعي والفكر والتدبير. عجيب. Il dit que le décès du prophète sallam, c'est l'événement choc. Rien n'a été plus pesant, plus lourd que le décès du prophète sallam, et ça a marqué le cœur de chaque croyant. Certains ont presque perdu la conscience, certains ne pouvaient plus parler, d'autres ne comprenaient pas ce qui se passait, d'autres ne se maîtrisaient plus, certains tombaient, certains sahaba étaient tombés. Vous savez, quand vous avez un choc émotionnel important, vos jambes ne vous soutiennent plus, les jambes se mettent à trembler. Les sahaba, ils ont vécu ça. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il démarre, wallahi, et puis bon, c'est l'auteur aussi, c'est un contemporain, il va faire jam' entre plusieurs versions. Il explique d'abord comment les sahaba aimaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il commence en expliquant l'amour que les sahaba avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le lecteur, il réalise comment les sahaba aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il vous dit qu'imaginez maintenant que cet homme quitte ce dunya. Comment est-ce que leur cœur va être vidé d'amour? Comment est-ce que ça va être un événement extrêmement difficile? Il va donner l'exemple de ce sahaba qui dit que lors de la bataille de Uhud, je me mettais devant le prophète sallam comme ça. Parce que si une flèche venait, je me mettais devant, au moins la flèche, elle rentre dans ma tête. Il protège al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Il donne l'exemple d'Abu Bakr al-Siddiq lors de l'immigration, lorsqu'il fait le trajet pour le prophète sallam vers la grotte, et il marche devant. Après un instant, après les derrière, après à droite, après à gauche, le prophète sallam dit, oh Abu Bakr, pourquoi tu te déplaces de tous les sens quand tu m'accompagnes, quand tu marches, du haut prophète d'Allah? Il y a des fois où je pense que l'ennemi peut surgir et envoyer une lance, et je me dois d'être devant, au moins la lance transperce mon corps, mais Al-Habib reste vivant. Et puis je dis que oui, mais s'ils viennent de derrière, ben je me mets derrière toi prophète d'Allah, au moins c'est mon corps qui est transpercé et cela ne t'égratigne pas. Et ainsi à droite, ainsi à gauche. Ça c'était l'amour que le sahaba ridwanullahi alayhi majma'in avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibn Kathir, rahimahullah, donne exemple, comme exemple aussi, et puis on va compléter avec ça, l'exemple de cette femme, le hadith n'est pas sous mes yeux, là on va dans tous les sens, l'exemple de cette femme qui, lors d'une des batailles, je ne sais plus c'est de quelle bataille, elle avait perdu son mari et son propre fils, j'y suis, c'est à la page 15, il a perdu son mari et son fils, Imra Amin Bani Dinar, de la tribu de Banu Dinar, son mari est décédé dans cette bataille, son frère et son père. Et tout ce qui est plus cher pour une femme, son mari, son papa et son frère, barakallahu fik, les trois sont morts dans cette bataille. À Uhud, voilà, on retrouve le texte. À Uhud, ils sont morts. Falamma, et lorsque les gens ont été la voir pour la consoler, il dit que, elle n'a pas posé la question de Dieu. Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Où est le prophète d'Allah? Qu'est-ce qui est arrivé au prophète d'Allah? Qalu khayra, il va bien, il est en bonne santé. Elle dit, arunihi. Hatta anzura ilay, amenez-moi voir le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je veux le voir de mes yeux. Si je le vois de mes yeux, je vois qu'il est bien. Là, mon cœur est satisfait. Et ils l'ont amené voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu le prophète, il dit, ô prophète d'Allah, kullu musibatin ba'daka jalal ay hayyin yasir. N'importe quelle épreuve, n'importe quel malheur, en guillemets, qui peut s'abattre sur nous, après, mis à part ce qui ne te concerne pas au prophète d'Allah, c'est rien. Tant que toi tu vas bien, tant que toi tu es en bonne santé. Ça c'était l'amour que les sahaba avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est décédé, Ali ibn Abi Talib, il est rentré chez lui, dans la maison avec Fatima, il n'est plus sorti. Umar ibn al-Khattab, il savait plus quoi dire. Il a commencé à dire que c'est pas vrai. Mohammed est vivant. Il est parti voir Allah. Comme Moussa alayhi salam est parti voir Allah 40 jours. Il va revenir. Attention, si quelqu'un ose dire que Mohammed sallallahu alayhi salam est mort, je lui coupe la tête. Et que Mohammed il va revenir bientôt sallallahu alayhi salam. Et il va punir les gens qui ont osé dire qu'il est mort. Notre prophète n'est pas mort. Mais Omar savait qu'il était mort, mais il ne pouvait pas accepter. Il connaissait Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qabli rusul, mais il ne pouvait pas l'accepter. Uthman ibn Affan, il était tellement choqué, il était assis près de Atam, près d'une des grands poteaux à Madina, à l'extérieur de la ville. Il restait là. Omar ibn Khattab passe devant Uthman, il dit salam alaikum, et il regarde le vide. Il ne comprend pas. Choqué, bouche bée, ils n'ont plus de réaction, ils ne savent plus quoi. Bilal, lorsque le prophète est décédé, il a dit, donne plus azan. Il ne peut plus donner azan à la masjid Nabawi. Ça le rappelle trop l'époque du prophète sallam. Et lorsqu'il a donné azan, il a dit, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, toute la masjid s'est mise à pleurer. Sahaba, il dit, lorsque le prophète est entré à Madina, jamais Madina n'a été aussi illuminée. Mais lorsqu'il est décédé, cette lumière est partie. Un autre tabi'in, ça s'appelle plus un sahaba, c'est un tabi'in maintenant. Il dit que je suis entré à Madina et j'ai entendu un bourdonnement, des bruits étranges. La ville pleurait. Toute personne qui habitait à Madina était en train de pleurer. J'ai rien compris. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Qubida Rasulullah, le prophète est décédé. Il a compris que ce qui venait de se passer, c'était quelque chose qui a touché l'ensemble de la Umma. Ça, c'était l'amour que les Sahaba avaient pour le prophète. Et donc, suivant votre mashwara, Inch'Allah, on a besoin d'une heure, minimum une heure, voire une heure trente, pour expliquer les différentes étapes. Comment est-ce que la maladie du prophète a commencé? Et des étapes, subhanallah, touchantes. Le prophète, avant de mourir, il va à Baqir, il va faire salam à ses compagnons qui sont enterrés à Baqir. Le prophète va à Uhud, il va refaire namaz de Nazar pour l'ensemble des gens qui sont entrés à Uhud, c'est-à-dire ces muhajirines qui sont morts de la bataille de Uhud, son oncle Hamza qui est à Uhud, il va aller faire salam parce qu'il va quitter ce dunya, il va quitter cette terre parce qu'il est en train de préparer son départ, son retour vers Allah Azza wa Jal. Ce sont vraiment des événements qui doivent être connus par l'ensemble de la Ummah pour que notre amour pour l'ensemble augmente, mais ce sont des moments poignants, Inch'Allah Azza wa Jal. Par la suite, on programme ça pour une autre fois, mais de toute façon, les leçons qui seront énoncées par Mawlana, c'est Inch'Allah mardi, ça va reprendre depuis le début de la révélation jusqu'au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, quand le prophète il va mourir, on va dire que à partir de ce moment, il n'y a plus de wahi, il n'y a plus de tanzil, il n'y a pas d'élément nouveau. Il y a un prophète qui reçoit la nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal, et qui a le choix en retourner vers Allah au risque de ce dunya, et il préfère retourner vers Allah. Ça, c'est la première leçon. Je vous dis les leçons que Mawlana va dire à cet moment mardi. La deuxième leçon, c'est que le prophète, lorsqu'il reçoit, il reçoit l'information de la part d'Allah Azza wa Jal, immédiatement, il va redoubler d'intensité dans ses bonnes actions. Alors que le prophète, c'était Abadunna, celui qui faisait le plus de salat, de qiyam, de tahajjud, il va faire encore plus d'efforts, il va commencer à faire des douas spécifiques, des douas de Rahman, oh Allah, aie pitié de moi. À chaque fois qu'il fait une prière, il va demander, oh Allah, aie pitié de moi, accepte-moi, oh Allah. Et ça, c'est des grandes leçons pour nous, que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend soin de demander à Allah Rabbul Izzah de lui accorder la pitié. Donc nous, en tant que simples croyants, nous nous devons d'invoquer Allah Azza wa Jal et de redoubler de vigilance dans l'accomplissement, Inch'Allah, des bonnes actions. Voici donc, ça ce sont les grandes leçons à retenir du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de l'amour que chaque sahaba a porté pour An-Nabi, pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant après, il y a les restes, il y a le détail, c'est par ordre chronologique, chez quelle épouse, jusqu'à quel endroit, comment est-ce que son état de santé s'est dégradé, Abu Bakr qui va officier les débuts des prières, et ainsi de suite. Donc c'est Inch'Allah. C'est bon, Inch'Allah?
D'après Mashallah, on a dit que ce serait bien que, comme il y a tout le monde qui est là, qui est venu écouter effectivement ça, qu'on fixe une date.
Entièrement d'accord.
Dès ce soir, et on se donne rendez-vous.
Inch'Allah. Si ça ne vous dérange pas. Ah non, moi ça ne me dérange pas. Si on peut faire le Mashallah avec la DDE aussi. Il faudrait qu'un responsable de DDE partime le Mashallah quand la route du littoral sera ouverte. Parce que c'était un adab, ça. Quand la route du littoral se ouvre, Inch'Allah, avec grand plaisir. Et on fera ici à Saint-Louis, pas ailleurs. Parce que je le dis toujours, c'est le meilleur public de la Réunion, déjà, alhamdoulilah. Et on a commencé ce dars ici, on le complétera ici, Inch'Allah. Qu'Allah Rabbul Izzah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Et que par le mujahada qu'on a fait, que l'amour pour le Prophète sallam pénètre nos cœurs. Et qu'Allah donne la possibilité de mettre en pratique chaque parole qui a été dit. Et que cela fasse un effet sur nos cœurs. Et que jour après jour, notre amour pour le Prophète augmente. Et notre assiduité, notre pratique de la religion augmente. Et qu'Allah soit satisfait. اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين